C'est écrit dans la parasha de Shemot. Vayamot Yosef, Vekol Echav, Vekol Adorahu. Et il est mort Yosef, et tous ses frères, et toute la génération. Vous savez qu'avant que, au début de la parasha, avant qu'on parle de l'esclavage d'Égypte, alors la Torah, elle explique comment est-ce que les choses sont déroulées. Et elle dit que à cette époque-là, les gens respectaient beaucoup Yosef, évidemment, parce que Yosef était vice-roi d'Égypte. Et respectaient aussi les frères de Yosef, qui étaient eux aussi des grands notables en Égypte. Et les descendants aussi, la génération des frères de Yosef. La Gemara, elle dit, tant que les frères de Yosef et Yosef étaient vivants, alors l'esclavage ne pouvait pas commencer. Alors c'est marqué, ils sont morts, il est mort Yosef, et les frères de Yosef, et toute cette génération. Alors là-dessus, le Ora Chaim à Kadosh, il donne cette explication. Ayu Amitraim et Chabdi Motam, tant que les frères étaient vivants, alors les Égyptiens les respectaient. Même quand il y avait encore un homme qui était de la génération des frères de Yosef, alors les gens ils se rappelaient de Yosef, ils se rappelaient des frères de Yosef, automatiquement ils n'ont pas osé assujettir, rendre esclaves les Bnei Israël. Mais à partir du moment où le dernier de la génération de Yosef est mort, alors à ce moment-là les Égyptiens ils ont commencé à mettre les Juifs en esclavage. Alors c'est marqué, ils n'avaient pas, ils n'osaient pas les Égyptiens les mettre en esclavage. Et il dit le Rachaim aussi, parce qu'il est marqué là-bas, qu'une autre explication, c'est que quant à la mort de Yosef, ils sont descendus de leur grandeur, les Bnei Israël, c'est comme un petit peu la noblesse. À partir du moment où les enfants de Yosef et les frères de Yosef faisaient partie de la noblesse de l'Égypte, alors ils avaient une certaine considération. Donc jamais les Égyptiens n'ont osé leur faire du mal. Mais à partir du moment où Yosef est mort, et les frères de Yosef sont morts, et la génération aussi, tout le monde est mort, donc à ce moment-là, les Égyptiens, ils ont commencé à se permettre de faire des choses. Pourquoi ? Il dit parce qu'ils sont descendus de leur grandeur. Il rajoute encore un élément, il dit « Vena asu shavim la'em » et ils sont devenus équivalents aux Égyptiens. Quelqu'un qui est au-dessus de soi, on ne se permet pas de faire des choses avec lui. Mais quand quelqu'un il est au même niveau, on se permet. Il rajoute encore, « Ubemita ta'achim, à la mort des frères, yardou les matam imadregatam, ils sont descendus encore plus bas que leur niveau à eux, shayou be'enehem nivazim, car ils étaient à leurs yeux méprisables. Avaladain lo ayou meshavedim la'em, verak le'achar shemet kolador, itrilou l'ishtavet ba'em. » C'est seulement à partir du moment où toute la génération est morte qu'ils ont commencé à les soumettre. Ici, c'est marqué deux éléments qui sont très très importants pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête même de ces hommes. Il faut comprendre, les gens, ils sont les frères du vice-roi. Ils sont les neveux du vice-roi, ils sont les cousins du vice-roi. Donc ils font partie de la noblesse. Comment ils peuvent arriver à un tel niveau de bassesse qu'on les traite moins que rien, moins que des chiens, moins que de la terre, moins que de l'argile? Et on les détruit, on les tue pour rien du tout. Comment quelqu'un il peut arriver à être un haut niveau de la noblesse égyptienne et d'un seul coup il devient moins que rien? Alors les étapes, elles sont définies. Pourquoi? Parce que la personne, les Égyptiens eux-mêmes d'abord, ils ont eu un autre regard sur les Bnei Israël, et à part ça, que les Bnei Israël, ils ont eu un autre regard sur eux-mêmes. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, à partir de ce Ora Chaim, ça veut dire que tant que les Bnei Israël étaient importants à leurs yeux, c'est-à-dire autant aux yeux des Égyptiens qu'aux yeux des Bnei Israël eux-mêmes, alors les Égyptiens ne pouvaient rien leur faire. Mais à partir du moment où eux-mêmes, ils se sont rabaissés et ils ont senti qu'ils étaient méprisables et ils ont senti qu'ils étaient méprisés, alors à ce moment-là, l'esclavage, il a pu prendre effet. Ça veut dire qu'il faut comprendre que les deux, ils sont marqués ici. Que les Bnei Israël n'étaient pas importants à leurs yeux, ni leurs propres yeux, ni les yeux des Égyptiens. Et c'est ce qui a provoqué l'esclavage. Alors c'est comme ça, pour comprendre ce phénomène, et surtout quel mode d'application on peut trouver avec ça sur notre vie de tous les jours, il faut regarder une autre Gemara. C'est une Gemara qui est dans Sanhedrin, la Flamet Zayin, la Gemara dit comme ça. Kitzad me'aymin être à l'aïdim. Vous savez, quand des témoins doivent venir témoigner sur un témoignage qui concerne un cas de meurtre, donc que leur témoignage peut engendrer la mort de la personne qui est condamnée, alors à ce moment-là, on a une obligation de faire peur, d'impressionner un petit peu les témoins. C'est pas quelqu'un qui vient, il témoigne, il dit « moi j'ai vu celui-là, il a tué ». Non, c'est du sérieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les prend à part. Il y a trois grands du Beit Din qui viennent, ils les regardent dans le blanc des yeux. Ouais, imaginez les trois tzadikim de la ville. Ils attrapent les témoins dans une pièce et ils leur expliquent « attention à ce que vous allez faire, la vie de cette personne elle va être entre vos mains, c'est vous qui allez parler, c'est vous qui allez décider, peut-être que vous avez été influencé, peut-être quelqu'un vous a donné de l'argent » pour leur faire comprendre qu'ils sont en train de faire quelque chose de grave. Alors là-bas c'est marqué qu'on leur dit « Lefichach nivra Adam yichidi » c'est pour ça que l'homme a été nommé, créé seul. Adam Arishon il était créé seul au début, pourquoi ? Les lamdecha shekol ame aved nefesh achat mi Israël ma'ale ala vakatuf keilu ived olam male. C'est pour te dire que si quelqu'un y détruit une seule âme d'Israël, c'est comme s'il avait détruit un monde entier. C'est comme si quelqu'un il essayait de réfléchir à son arrière-arrière-grand-père qui était seul et un jour il a rencontré son arrière-arrière-grand-mère. Oui, et de là sont nés ses arrière-arrière-grands-parents qui ont donné ses grands-parents, qui ont donné ses parents, qui ont donné lui. Et tout ça, ça fait une population peut-être de 2500 personnes. Parce que c'est des grandes familles. Il dit, mais finalement, le grand-père, il était seul. Au départ, il était seul. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est l'arrière-arrière... Adam Arishon, c'est l'arrière-arrière-grand-père de toute la terre. Et tu vois qu'à partir d'un homme, Akadosh Baruch Hu, il a peuplé toute la terre. Donc, quand toi, tu regardes une personne, tu ne dois pas regarder simplement la personne qui est devant toi. Tu dois regarder tout son avenir. Donc, si toi, tu décides aujourd'hui de condamner à mort quelqu'un... Il faut savoir que c'est un avenir qui est condamné, c'est pas seulement une personne. Et dans tout, c'est comme ça. Quand on veut parler sur quelqu'un, quand on veut faire un petit peu de la shonara, vous savez, des fois ça brûle la langue. Enfin, quand on a des boutons sur la langue, il faut se poser des questions. D'accord? Eh bien, on a envie de parler. Avant de parler, on doit dire, bon, je vais dire quelque chose qui est vrai, qui est important, et qui concerne cette personne-là. Alors avant de parler, je dis, attends, ça ne concerne pas que cette personne-là, ça concerne aussi ses enfants. Il dit, mais il est célibataire. Ça concerne ses enfants. Ça concerne ses petits-enfants. Ça concerne la personne qu'il va épouser. Ça concerne la personne que ses enfants vont épouser. Tu vas me dire, tu vas trop loin, il est célibataire. Mais non. Toi, tu vas parler. Au lieu de lui créer une auréole, ouais, tu vas lui créer une odeur qui va aller autour de lui. Que les gens ils vont se dire, bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il reste toujours un petit fagot. Et grâce à ça, tu vas lui casser peut-être un chidour, peut-être deux, peut-être trois. Et il va être mal dans sa tête. Il va être mal dans sa peau. Donc il va trouver que quelqu'un qui est aussi mal dans sa peau pour se marier. À deux, ils vont avoir des enfants qui sont mal dans leur peau. Regarde le calcul. Regarde jusqu'où il va. Ça fait lourd, hein? Une petite parole comme ça. Si ça me brûle. J'arrive pas à me retenir, il faut que je parle. Eh bien, coupe la langue. Aujourd'hui, chez Castorama, vous pouvez trouver du ciment à prise rapide. Une petite cuillère, vite fait comme ça. T'as envie de parler? Une cuillère. Le temps que ça prenne, tu vas bien réfléchir. C'est pareil. On se rend pas compte. La Gemara, elle dit, la vie et la mort sont entre les mains de la langue. Bon, c'est dur à comprendre les mains de la langue, mais bon. En tout cas, ça marche bien. Donc c'est pareil. Quelqu'un il veut parler, il réfléchit. Et la Gemara dit que la parole c'est considéré comme un meurtre, la shonara. Parce que t'as pas tué la personne, t'as tué son image, c'est pas beaucoup mieux. T'as tué son crédit, c'est pas beaucoup mieux. T'as tué son avenir, c'est pas beaucoup mieux. Alors qu'est-ce qu'il y a de pire? Peut-être qu'il aurait préféré mourir, à savoir. Donc ici c'est de la même manière. Quelqu'un, quand on va lui dire, attention, vous allez témoigner sur un meurtre, faites attention, vous êtes en train d'accuser quelqu'un de meurtre. Vous êtes certain que c'est lui. Vous avez bien vu qu'il l'a tué. Vous avez bien vu que la personne n'était pas morte. Vous ne confondez pas avec quelqu'un. C'était bien ce jour-là. On leur fait peur. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils soient bien conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Oh là, Malais, c'est un homme. C'est un monde entier que tu es en train de détruire. Les fichar, kol echad vechad, chayav lomar, bishvili nivra olam. Et dit la Gemara, c'est pour ça que chacun doit dire. C'est pour moi que le monde a été fait. Cette Gemara est dure à comprendre. Chacun doit dire, le monde il a été fait pour moi. Alors les gens ils comprennent, ah le monde il a été fait pour moi. Non. Le monde a été fait pour moi, ça veut dire, c'est un niveau de responsabilité. On t'a donné un niveau de responsabilité qui est extraordinaire. C'est qu'en vérité, tu as des mondes en face de toi, extrêmement complexes, qui s'appellent des personnes, qui contiennent leur futur, génétiquement, psychologiquement, et qu'à chaque fois que tu vas travailler dans le sens du bien, tu vas construire un monde, et à chaque fois que tu vas travailler dans le sens du mal, tu vas détruire un monde. C'est comme si tu as fait une fissure dans un pare-brise. Tu dis, bah, je t'en prie, on voit quand même à travers. Eh bien, il y a des gens qui sont fissurés. Ils ont un choc, ils ont un malaise. Bon, il y a des chocs graves, des chocs moins graves. Pourquoi tu fais un choc? Laisse tomber. Ici, c'est pareil. Donc, quand je dis le monde a été fait pour moi, ça veut dire que moi, je suis responsable du monde. Et donc, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais, je fais attention au regard, aux attitudes. Et la Gemara t'explique, en ce qui concerne les témoins, que c'est un haut niveau de responsabilité. Alors que là, c'est physique parce que tu vas enlever la vie physique de quelqu'un. Il dit Rashi, sur cette Gemara, Kelomar, Chashuv Ani Keolam Malé. Moi, je suis considéré, important, comme un monde entier. Lo Atrid et Atzmi Mina Olam Be'Avera Achat Ve'Imshor Mimela. Je vais m'écarter d'elle. Ça veut dire quoi? Regardez Rashi, comment il a expliqué. Ça veut dire quoi? Le monde, il a été fait pour moi. Et un homme, c'est considéré comme un monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as compris l'importance de ce que c'est un homme, tu vas le détruire pour une avéra, pour une faute. Les Chachamim donnent toujours cette règle. Quand vous rentrez dans une situation, dans n'importe quel type de choix, il faut toujours vous demander qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous perdez. Je sais que ça a l'air simplé, que ça a l'air bébête, mais moi je vous le dis, c'est des milliers et des milliers d'heures que vous allez gagner avec ça. Tu veux faire quelque chose? Tu réfléchis. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? N'importe quoi. Une mitzvah, tu calcules. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Une avéra, tu calcules. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Tu calcules. Ça vaut le coup, non? N'importe quoi. Tu rencontres une personne. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Tu veux travailler. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? C'est rien du tout. Ça prend 5 minutes, un petit calcul. Ça change complètement la façon de voir les choses. Puisque nous, les trois quarts de nos choix, malheureusement, ils sont déterminés avant de se poser. Puisqu'ils fonctionnent selon nos intérêts. Donc en vérité, on n'a jamais vu l'autre côté. Pourquoi dans les trois quarts des cas, les gens sont déçus par le résultat? Parce qu'ils n'avaient pas envisagé qu'il y avait deux côtés. Donc quand ils abordent le deuxième, ils disent « Oh !» Mais quand quelqu'un, il fait le compte, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Donc il a vu le deuxième côté. Donc quand il a décidé, c'était un vrai choix. Et bien si ça ne marche pas comme il attendait, il n'est pas déçu, puisqu'il savait qu'il y avait une deuxième possibilité. Alors je vous ai dit déjà, il y a deux ou trois mardis, et je vous le répète parce que c'est important. Les trois quarts d'entre nous, au lieu de gérer les problèmes, au lieu de gérer les cas, on gère les séquelles des mauvais choix. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé l'histoire. Vous comprenez ou non? C'est comme un type, il est sorti à la mauvaise sortie d'autoroute, et puis toute sa vie, il en a peut-être, je vais retrouver l'autoroute, et je vais retrouver l'autoroute. Et à la fin, on lui dit, c'est la fin de la course. Il dit, attendez, mais je ne suis même pas sur l'autoroute. Il dit, c'est la vie, mon mec. Comprenez ou non? Il s'est trompé de sortie. Il avait une auberge sympa. Après, il avait une copine là-bas, mais elle n'était pas vraiment de son groupe. Puis il est resté là-bas. Puis il a fait deux gosses. Il dit, bon, si t'es là déjà, t'as qu'à rester. Bon. Après, il a perdu son boulot. Elle lui a dit, tu peux plus m'assurer le standing, va-t'en. Bon. Il dit, je vais chercher ailleurs. Que des séquelles, des séquelles, des séquelles. Ça n'a même pas commencé l'histoire. C'est comme si un type, on lui demande de faire une interro. Il fait tomber son stylo. Et le stylo, il roule, il tombe par la fenêtre. Et l'autre, il descend deux semaines pour chercher le stylo. Après, rien, j'ai retrouvé mon stylo. Alors tu dis, mais on a déjà rendu les résultats de l'examen. Il y a des gens toute leur vie cherchent leur stylo. Où c'est qu'il faut signer? Mais c'est fini, mon frère. C'est terminé. Comme ça. Pourquoi il y a des gens qui ont la moustache frisée? Parce que toute leur vie, ça. Ça leur passe au-dessus. Ici, c'est marqué, si un homme, il fait le calcul, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Et vraiment, il est honnête, honnêtement. Il se dit, bon, voilà. Alors, j'ai mes parents qui ont investi. J'ai HM qui a investi. J'ai la santé, je suis bien. J'ai des amis, j'ai des possibilités, je suis jeune. J'ai la pêche, il y a de l'argent, il y a des possibilités. J'ai la culture, j'ai l'intelligence, j'ai tout.
Ça, c'est un côté de la balance. De l'autre côté, il y a la Vera. Faut pas avoir peur. De l'autre côté, il y a la Vera. Elle est là. D'accord ? Pourquoi nous, on craque ? Parce qu'on garde que la Vera. On dirait quand même, c'est... C'est bien, c'est bon, c'est sympa, c'est vite fait. C'est bien. S'il te plaît, regarde l'autre côté. Regarde l'autre côté. T'es en train de faire une balance, là. Vous comprenez ou non ? Pourquoi ils craquent, les gens ? Parce qu'il n'y a pas de balance. Eux, ils disent, bon, bah, c'est un petit événement, c'est un diapo. On passe un diapo et puis la vie continue. Non. Stop. Arrêt sur image. Regarde la balance. Regarde. Tac. Tac. Regarde bien. Regarde. Il y a la Vera et il y a le reste. Ça, c'est une balance. Si vraiment il avait les deux en face de lui, il craquerait pas. Comment il craque ? Parce que pour l'instant, il y a la Vera. Après moi, le déluge. Mais s'il regarde vraiment la balance, c'est fini. Bitoulbérov, il annule. C'est même pas intéressant, la Vera, ce qu'il dit Rashi. Rashi, mais t'es un monde complet toi-même, t'es un monde entier. Le monde, il a été fait pour toi. Et maintenant, tu craques pour une Avera. Ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que tu te rabaisses à des bassesses comme ça? Vous comprenez ou non? Nous, on dit toujours, mais quoi, mais alors j'ai envie, je fais ce que j'ai envie, de toute façon, je fais ce que j'ai envie. Oui, d'accord. Et si ton père te regardait, tu le ferais? Et si ta mère, elle était assise au bord du lit? Eh ben, vas-y, ma fille. Eh ben, maman, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'attends ma fille, voilà, je t'ai mis au monde, ça fait 30 ans que j'attends que tu t'épanouisses, et je vois, bah, au Hachem, t'as trouvé Maximilien, et je vois que t'as. Tu vas t'épanouir. C'est pas qu'il faut vivre avec l'image de sa mère, comme ça. Ouais? Mais il faut, la mère, ça correspond à la conscience, l'investissement, d'accord? De la même manière que toi, si tu vois ta fille qui craque, tu dis, mais tout ce que je me suis crevé pour toi? De la même manière, tu peux dire, qu'est-ce qu'elle dirait ma mère? Quelle différence? Il n'y a pas de différence! Vous comprenez ou non? Ah, vous dites, oui, mais c'est une vue de l'esprit. Et alors, quelle différence entre s'aveugler et voir clair? Vous pouvez me dire la différence? Tu dis, mais voir clair, c'est débile, puisqu'il n'y a rien. Elle n'est pas là, maman. D'accord? Et s'aveugler, c'est pas débile? C'est autant débile? C'est autant débile. Et si quelqu'un il va dire, de toute façon, je fais ce que je veux, on va dire, on verra avec ta fille. On verra avec ta fille, qu'est-ce qu'il va faire? Imagine, tu t'es crevé, tu l'as élevé, ton fils, tu as mis les meilleures écoles, tu t'investis, et la tendresse, et l'amour, et l'équilibre, et la discussion, et tout. Et à 18 ans, il dit, papa, tout ce qui m'intéresse, il n'y a que ça qui m'intéresse. Tu dis, mais mon fils, ma vie, c'est une grande seringue. Tu dis, mais mon fils, mais non, écoute, il y a la vie, il y a la beauté, il y a, je sais pas moi, il y a Rio, il y a... La Torah ne t'intéresse pas, mais il y a autre chose. Non, ce qui m'intéresse, c'est un canapé pourri dans un squat avec une dose, une seringue dégueulasse. Et j'y vais, et je plane à mort sur un plafond moisi. Mais mon fils, tout ce que je t'ai donné, c'est pas possible, c'est quoi c'est ce gaspillage? Ouais. Bah, combien j'ai entendu des mamans comme ça? Un fils, même si le rabbin a un fils, une beauté, un grand, brun, aux yeux bleus. Tout le monde se retournait, tout le monde disait « Hamcha sur ton fils !» Et maintenant, vous le voyez, il fait 35 kilos, il est jeté là-bas dans un sanatorium. Toute la ville est là. Je sais pas pourquoi vous rigolez. Bon. Ouais. Alors, regardez bien, c'est pas pour vous traumatiser que je vous dis ça. C'est seulement pour vous dire une chose. De la même manière que moi, si j'étais la mère, quand je regarderais la fille ou le fils, je serais cassé. Alors j'ai une question débile. Pourquoi la fille ou le fils, quand ils pensent à leur mère, ils ne sont pas cassés? C'est la même chose. Vous comprenez ou non? Alors maintenant, la symbolique ici des parents, c'est pas les parents en soi. Maintenant, il faut vivre avec l'image des parents, la culpabilité de ta mère, de ton père. Non. C'est la conscience. La conscience du gaspillage. Qu'est-ce qui détruit le père et la mère? C'est le gaspillage. Tu dis, j'ai mis 20 ans, et ça part comme ça. Alors, cette notion du gaspillage, il faut l'avoir dans la vie. Il faut sentir ça. Mais c'est quoi le gaspillage? C'est quand on compare l'investissement et le résultat. Le potentiel et la réalité. C'est ça le gaspillage. Et bien, c'est ce qu'il dit Rashi ici. Il dit, comment un homme, il doit considérer qu'il est un monde. Il est un monde complet. Un monde. D'accord? Avec des milliards d'investissements. Akadosh Baruch Hu, qui est là, qui l'aide. Il y a des milliards d'anges qui mettent en place tout ce qu'il a besoin. Toute une assemblée, toute une société. tout un milieu, tes professeurs, toute la Torah, toutes les connaissances, tout. Et l'autre, il dit, j'ai envie de faire une avéra. Tu dis, mais attends, il y a un problème de balance, là. Ce qu'il dit Rachid. Comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle Gadlout à Adam. C'est la grandeur de l'homme. Il faut se sentir grand. Il faut se sentir grand. Vous comprenez? Malheureusement, notre société, elle ne fabrique pas des petits, elle fabrique des vides. C'est ça qui est embêtant. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire que tu dis à quelqu'un la grandeur d'âme. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. D'abord, ils ont du mal à digérer les chewing-gum, alors tu leur demandes en plus. La grandeur d'âme, ça ne veut rien dire. La dignité, c'est même pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Ça veut rien dire, c'est pourquoi? Parce que ça, je vous l'ai expliqué à peu près 6 ou 7 millions de fois. Mais étant donné qu'aujourd'hui, la plus grande zone d'influence, c'est les médias. Que les médias, c'est le cinéma. Que le cinéma, c'est des jeux de rôle. Que les jeux de rôle, c'est du faux. Et que moi, je m'oriente vers des gens qui n'existent pas. Donc automatiquement, je n'existe pas. Donc le vide, il n'a pas de problème de conscience. Comprenez ou non? Si moi, je me dis, ben, tu vois, tu sais ce que je suis, moi, au fond, quelque part? Je suis comme lui. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Rien. Ben moi, je suis comme lui. Si quelqu'un il a un modèle humain dans la tête qui existe, donc il peut se dire, je suis pas comme lui. Mais quand quelqu'un, son modèle humain, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Donc lui, c'est déjà extraordinaire de jouer un rôle. Puisqu'il est comme lui. Vous comprenez ça? Ça s'appelle Festival de Crasse. Festival de Crasse. Voudrais-tu participer au festival de crasse? C'est-à-dire que tu fais partie de ceux qui n'existent pas. Et encore, si tu faisais partie de jeux qui eux-mêmes jouent le rôle de ne pas exister, mais toi tu fais partie de ceux qui rêvent de faire partie de ceux qui n'existent pas. Je sais pas si même ton rêve il est virtuel. Eux ils ont une vie virtuelle. Et toi tu virtualises ton rêve, toi. C'est la folie, quoi. C'est comme si un CD effacé jeté à la poubelle. Déjà, un CD, c'est virtuel, mais effacé et à la poubelle. Je ne sais pas si tu sens le... C'est que là, Torah t'a dit, toi, en tant que personne, il faut que tu existes. Et toi, tu t'assimiles à des gens qui n'existent pas. Et après, tu t'étonnes que tu es mal dans ta peau. Tu t'étonnes. Mais c'est de la folie. La grandeur d'âme, Gadlouta Adam, la grandeur de l'homme, c'est que quelqu'un, il a une référence qui est haute, qui existe, qui est réelle. Donc à ce moment-là, il peut se mesurer, il peut s'orienter, il peut admirer, il peut tendre vers quelque chose. Et quand il compare avec le vide, il peut se dire, j'ai raté quelque chose. Mais si quelqu'un de toute façon il vit dans une vie qui est fausse, avec des références qui sont fausses, dans un relationnel qui est faux, ça va, et toi, ça va. Où tu vas, j'irai. T'es content de tes vacances, ouais. Et ton boulot, ouais, ça évolue, tu vas quelque part, ouais, là où j'irai, j'y suis. T'as une ambition? Je suis en train de me demander si je vais pas te changer de côté, marais. C'est une ambition? Ben, c'est quand même important, c'est ton image, c'est ta représentativité. Mon psy m'a dit que c'était important. Parce que j'ai deux profils en fin de compte. C'est vrai? Ça dépend de quel côté tu prends la photo. T'as rien d'autre dans la tête? T'as pas un autre problème? C'est pas possible. Alors je dis le contraire. Il faut absorber du plomb, d'accord? Il faut renforcer tout ça. Il faut développer une notion qui malheureusement aujourd'hui n'existe pas trop dans la réalité, mais qu'il faut renouveler, qui s'appelle Gadlout à Adam. La grandeur de l'homme. L'homme pour l'homme. Pas la grandeur de l'événement, pas la grandeur de la performance, pas la grandeur du résultat, ouais, pas la grandeur économique, pas le pouvoir géopolitique, la grandeur de l'homme. Ça change tout. Ça change tout. Parce que comme la référence, elle est humaine, donc aussi, la correspondance, elle sera humaine. C'est comment est-ce que quelqu'un il peut dire ça se fait pas? Parce qu'il a une référence. Mais si quelqu'un n'a pas de référence, Bah, tout se fait. Qu'est-ce qui se fait pas? Au contraire. Plus t'es horrible, plus on trouve ça. Il y a quelque chose, tu vois. Tu... Comprenez ou non? Ils appellent ça la culture du sordide. La culture du sordide. Vous ne savez pas? Il faut sortir un peu. La culture du sordide. Encore plus dégoûtant, encore plus pourri, encore plus monstrueux, encore plus choquant. D'accord, bon, d'accord. Je dis, oh, mais comment c'est une autre approche? Comment il l'a attrapé, il l'a coupé en morceaux, il l'a ouvert de bas en haut, il a pris les viscères, il l'a mis dans la bouche. Après, il dit, mais tu vois, ça exprime quand même une certaine. Tu vois, c'est cet apocalypse de la violence qui exprime. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux avec ça? Mais c'est apocalypse. Ah oui, d'accord. Alors, t'as honte de dire que c'est débile. Alors, tu dis, ouais, alors, oui, alors, oui, oh, c'est bien. Alors, oh là là, je le sens là. La culture du sordide. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Mais où tu vas? Il n'y a pas de référence. Comprenez ou non? L'art, c'est très abstrait comme ça. Fais ce qu'on veut avec. Tout peut être un art. Même le meurtre, ça peut être un art. Tout. Le jeu, tout. Et tu penses, le sexe, la bouffe, tout. Il n'y a plus de limite. C'est normal, il n'y a pas de référence au départ. Quand tu as un axe, tu sais si tu es à 10 mètres ou à 20 mètres ou à 30 mètres de l'axe. Mais quand il n'y a pas d'axe, ben c'est du n'importe quoi. Et pour peu qu'il y ait une certaine partie du troupeau qui oriente, les autres, ils suivent. Tu dis, mais c'est quoi la référence? Il y a un moment ou un autre, tu dis, stop, excusez-moi, ça ne me concerne pas. Comment tu vas dire ça? Tu dis, quoi. Attends, mais oh Dieu, faut être cool un peu. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, mais c'est horrible. Oh là là, t'es... Comment ils disent ça en français? Ils disent, t'es moralisateur. Moralisateur? Mais c'est quoi la limite? Parce qu'il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. Et il faut pour ça... Prendre de temps en temps des petits bains de. Un type est en Oni Yeshiva pendant 6 mois, quand il sort, il croit que le monde il est rempli de monstres. C'est normal, c'est d'autres références. Mais c'est vrai que quand tu es dedans, j'ai dit à des gens, démange la télé pendant une semaine, tu vas voir. 2 semaines, 1 mois. Après tu. Je suis comme ça. Vous comprenez? C'est une mécanique. Ça s'appelle la mécanique du conditionnement. Tu rentres, tant. Ouais, mais quand tu t'arrêtes, tu dis hop, stop, je veux regarder autre chose, je m'arrête. Après, quand tu reviens, t'es choqué. Tu fais, oh là là, à quoi ça sert? Pourquoi t'as besoin de voir du sang qui coule, des cervelles qui éclatent? À quoi ça sert? Tu dis, ouais, mais c'est la réalité, il faut être au courant, c'est important, c'est l'information. Mais pourquoi faire? D'accord, oui, d'accord, mais pourquoi faire? Je me rappelle, une fois j'avais regardé un livre de. Je sais quoi ça? C'était un livre sur la peinture. Orientaliste. Et il y avait un portrait super bien fait d'un type qu'on avait décapité et qui était allongé par terre et la tête elle était à côté du corps. Un portrait qui faisait 2 mètres de haut. Et là en dessous dans la légende il marquait ce portrait il a été fait en 1820 ou je sais pas quoi. Quand ils ont fait cette exposition, il y a beaucoup de femmes en voyant ça elles se sont évanouies. Attends, tu rentres dans une exposition, tu vois un tableau, c'est un tableau, attention, c'est pas au coin d'une rue comme ça, t'as vu une tête tomber. Hein. Et il y a un corps allongé avec une tête à côté. Tu dis, bon, aujourd'hui, tu prends un enfant de 8 ans. Il dit, Comprenez ou non? Lui, ses petits jeux électroniques, c'est essaye d'abattre le plus de civils possible pendant 24 secondes. C'est ça le jeu. Le plus de civils et de policiers. Il a que sa souris. Alors après, il te marque 28 morts, 240 blessés. Bravo, tu feras mieux la prochaine fois. Eddie. C'est écrit ton nom d'abord. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un mec qui est dedans. Bah, il dit, ouais, bah, qu'est-ce qu'il y a? Faut pas voir. Orthodoxe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On s'amuse. Hein, ça. L'enfant, il sait très bien que c'est virtuel. Bien sûr que c'est très bien. Regarde aux États-Unis. Bah. Comment c'est virtuel? Bien sûr que c'est virtuel. C'est tellement virtuel que quand il fait en vrai, il croit qu'il s'amuse. Je sais pas si tu sens lui. Comprenez ou non? Normalement, quelqu'un. Il est tellement équilibré que quand il voit un film, il dit « mais ça, c'est faux ». Là, on est tellement déséquilibré que quand on le fait en vrai, on dit « mais non, ça, c'est faux ». Je ne sais pas si vous sentez le... Ça s'appelle un transfert. Un transfert. Enfin, un transfert. Et je vais régler le problème des premiers de la classe. Alors, j'ai ramassé des fusils et puis on a été avec 2 copains. Vas-y. Mais ça dure au moins 2 heures. 2 heures, tu cours après les mecs, tu les mets sous la table. Tu dis, alors toi ou le black, alors tu dis, le black, boum, la tête qui explose. Mais il faut lire les articles. Il dit, j'ai vu ma copine courir, j'ai vu sa tête éclater. Et l'autre, il rigole et il cherche une deuxième. Ça vous fait pas froid dans le dos? Ça fait froid quand même. Il faut savoir que la France, elle a toujours 20 ans de retard sur les États-Unis. Tu calcules? Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, encore une fois, c'est pas pour... Moi, je m'en tape, moi, qui se mange, qui se font, qu'est-ce que j'ai à faire? Mais c'est simplement le problème, la constatation de... Où elle est Gadlout à Adam? Où elle est cette grandeur de l'homme? Il n'y en a pas. Et c'est clair. Pas de référence, pas de taille. Tu as deux façons de mesurer quelque chose. Soit c'est grand en soi, soit tu le mets à côté de quelque chose. Quand tu es debout à côté d'une falaise, tu vois tout de suite ta taille. Et quand tu es debout à côté d'un gravier, tu vois tout de suite la taille du gravier. C'est un problème de référence. Mais si tu as inventé une machine extraordinaire qui s'appelle la non-référence, il n'y a plus de référence. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, tu peux rigoler sur la vie, sur la mort. Tu peux parler de la sexualité chez les enfants de 8 ans. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, il n'y a plus de référence. Alors, je dis, mais c'est pas grave, il faut être ouvert. Faut pas être fermé comme ça. Moi, j'ai rien contre, moi. Moi, j'ai rien contre. Moi, si on me disait demain, tiens, Maurice, il a épousé un chien, je dirais, bah, Mazal Tov. Pas mieux, non? Tu veux ou non? Et l'autre, il s'est fait greffer une banane ici. Eh, pourquoi pas? D'accord. Ginette, elle a épousé un palmier. Ça y est. Je suis très ouvert, moi. Je suis très ouvert. Juste un petit problème. Comment ça marche dans la tête des gens qui vivent ça? Comment ça marche? L'autre jour, j'ai eu dans le canard enchaîné. Alors, une femme, il y avait un homme et une femme. Ils avaient deux enfants. À 80 ans, le mari, il a décidé de changer de sexe. Il est en Belgique, il s'est changé de sexe. Après, il est revenu. Du coup, les gosses, ils se sont retrouvés avec deux mamans. Alors, maintenant, entre-temps, la femme, elle s'est mise avec un autre type. Elle a eu encore deux enfants. Après, elle est morte. Les enfants, ils ont hérité. Donc, ils ont hérité de qui, exactement? De leur mère? Non. De leur demi-mère. Je me rappelle plus les détails, mais c'était un tralouet de... Parce que elle, en même temps, elle est devenue homosexuelle. Et puis, là, attends. 70 ans. Faut être ouvert. Comment ils disent en business? Il faut élargir la gamme. C'est extraordinaire. Mais c'est comme ça. Quand il n'y a pas de limite, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de référence. Encore une fois, quand le mur, il est là, tu sens quand tu t'éloignes. Mais quand il n'y a pas de mur... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors moi, je pose une question. Comment ils sont dans leur tête, ces types-là? Comment ils sont? C'est pour ça que la Torah, elle pose le principe depuis le départ. Un homme, il doit avoir une référence. Il s'appelle Gadlout à Adam. C'est la grandeur de l'homme. Il dit Rashi, un homme, en vérité, quand on lui demande de comparer entre ses potentialités et une avéra, il doit tout de suite voir la différence. Pourquoi on ne voit pas la différence? Parce que nous, on n'a pas l'autre côté. On n'a pas le côté grand. On n'a pas construit, on n'a pas développé. On n'a pas la référence. Alors on ne voit pas. Et tu dis, bah écoute, un homme dit, mais j'ai envie, mais ma parole, j'ai vraiment envie. Hein. C'est bon, c'est ta ref, mais j'ai envie. Écoute, tu ne vas pas me prendre la tête. J'ai envie. Mais d'accord, mais c'est pas bien. C'est dangereux. Non, d'accord, oui, je sais que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux. Bah, c'est bien que Dieu, c'est pas un bleu. Il sait de quoi il parle. Mais quand même, mais j'ai envie. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence. Regardez ce qui est marqué à propos de Yosef avec la femme de Poutifar. Vous savez que la femme de Poutifar, elle a essayé de le faire fauter. Alors c'est marqué là-bas, Vaïma En, Vaïomar, elle est chez Adonav. Il a refusé et il a dit à la femme de son maître. Elle est ce qu'il a. Le Midrash Rabban dans Bereshit, là-bas, il explique. Amarla, il ne savait pas comment lui échapper. Elle était folle de lui. D'accord? Regardez ce qu'il a dit Yosef. Regardez bien. Limudu Akadosh Bokhu liyot bocher me'aouvi betavi le'ola. Akadosh Bokhu, il a l'habitude de prendre les plus aimés de ma famille en tant que ola, ça veut dire en tant que sacrifice. Comme il a pris Yitzhak Avinu. D'accord, en tant que sacrifice. Alors, il risque de me prendre à moi. Et je vais t'écouter, je vais fauter avec toi. Veshema Efrar Leola, Veshamina Korban. Peut-être que Akadosh Baruch Hu va me choisir en tant que sacrifice. Et moi, je vais être je vais être inadéquat par la faute que j'aurais fait. Ou Akadosh Baruch Hu a l'habitude de se dévoiler à ma famille. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé chez Abraham, chez Yitzhak et Yaakov. Il a dit la nuit, dans le rêve. D'accord ? Moshe Rabbeinu s'était réveillé. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était la nuit. Et Shema Lecha, je vais t'écouter, je vais fauter avec toi. Regarde bien. Ou Shema Igale, Allah Akadosh Baruch Hu, Allah Akadosh Baruch Hu, Veimatse Otsitame. Peut-être là, Akadosh Baruch Hu, il va se révéler à moi, il va me trouver impur. Parce que j'aurais fauté avec toi. Nous, on va penser un truc pareil. Il y a une femme, ouais, qui veut te faire fauter. Il n'y a pas une femme. Elle veut te faire fauter. Ah, tu vas lui dire, excuse-moi, mais j'ai peur que Dieu se révèle à moi. Et... Elle va dire, allez, vite fait. Quelle ambition il faut avoir pour regarder les choses d'en haut. C'est que quelqu'un, il peut arriver à dire, c'est vrai que la faute, c'est bien, c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que c'est kiffant. Mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme si un type dit, bon, imagine, tu es au bord de la mer, et il fait très très chaud, et il y a une flaque qui est fraîche. Et tu te mets dedans, tu te roules dedans, et ça te rafraîchit. Tu vois ? Mais c'est de la boue. On dit, bon, bah, c'est de la boue, mais d'accord, mais enfin bon, c'est pas grave, puisque t'as chaud. Donc si t'as chaud, c'est pas grave, tu te mets dans la boue, quand on a chaud. Mais c'est de la boue quand même. Ah, il y en a un, il va dire, bah, c'est vrai, il faut être logique. Quand t'as chaud, bah, tu te mets dans la boue. Tu te fais chaud. Est-ce que vous me suivez? C'est comme la mère, elle va se dire, maintiens-moi, je me mets en petite tenue devant mes enfants parce qu'il fait chaud en été. Mais c'est quand même, c'est tes enfants. Elle dit, oui. Bon, alors, ça vous choque pas, alors, peut-être la grand-mère. Mamie, t'as oublié de t'habiller. Mais non, mon fils, mais non. Voilà, c'est bien comme ça, tu sais comment c'est une femme. Elle va pas se marier. Comprenez ou non? Ça dérange quand même. Tu dis, ah, on a beau être ouvert, quand même. Pas te couper en deux non plus. Ici, c'est pareil. Donc, quand quelqu'un il va dire, bien que c'est intéressant, je vais pas me rabaisser à un niveau pareil. Nous, normalement, notre référence, elle est par rapport à la vera, par rapport à la faute. De dire, bon, c'est vrai, faut reconnaître, comme il a dit Rabbi, je sais que le taref, c'est bon, je sais que c'est bon, j'ai pas dit le contraire, mais c'est interdit. Tu dis, mais, bon, mais c'est interdit, mais si tu compares le kiff avec l'interdit, ça dépend où t'es placé, ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Si la faute, ça veut dire, mets-toi à quatre pattes, écoute ton Yetzirah, deviens un kélève, un chien. T'as pas envie de fauter. Si la vera pour toi, c'est la façon de vivre. Parce que la société, elle exprime qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça la liberté. C'est ça la réalisation de soi, faire ce qu'on a envie. Donc toi, t'as l'impression qu'en fautant, t'existes. Or, nous sommes deux. Vous savez que nous sommes deux. On a un corps et on a un esprit. On a une volonté et on a un cheval. Quand je dis « je veux », c'est moi. Quand je dis « j'ai envie », c'est mon cheval. Ça s'appelle le corps. Donc si quelqu'un il dit « je fais tout ce que j'ai envie », ça veut dire qu'il est un cheval modèle. Bah oui. Il dit « mais si ça me fait plaisir, moi, de faire ce que j'ai envie », pas de problème. Mais ne dis pas « moi » et ne dis pas « je ». Oublie ces mots-là. Ne dis plus « je ». Ce mot-là, il ne veut rien dire pour toi, « je ». Il faut dire parce que je, c'est l'expression de la volonté. Je, c'est le vecteur d'articulation de l'existence, de l'être. Les chevaux ne disent pas je. On a rarement entendu un cheval qui disait je. Très rare. Peut-être Fernandel et encore. Ouais. Très rare. Donc faut que tu te décides. Mais comme notre société, elle fait la culture des chevaux, et que Blainara, elle y arrive bien. On peut pas lui reprocher, ça c'est vrai Blainara. On peut dire qu'il leur manque que la selle. C'est vrai, non? Oui ou non? Un bon cheval. Quoi tu penses? Bouffer. Qu'est-ce que tu veux? Bouffer. Dans quel but? Bouffer. Et c'est la vie. Donc il y a plein de plats à manger, je suis d'accord avec vous, je sais que c'est très serait très divers comme menu. Mais c'est de la bouffe. Ah, mais c'est pas possible, mais il n'y a pas que ça. Si, 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 il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça qui compte. Une fois, quelqu'un il m'a dit, oui, vous les religieux, vous êtes frustrés. Je dis, je sais pas, moi, dis-moi, les drogués, ils sont frustrés. Il m'a dit, non, parce qu'ils ont créé un besoin. Je dis, bah, nous aussi. On s'est libéré d'un besoin. Oh là là, il allait hennir de... Bah, il faut quand même définir ce que c'est un homme. Attendez, faut... ça vaut le coup, non? En 1999, ça vaut le coup de savoir ce que c'est un homme, non? Oui ou non? C'est tellement facile d'être un animal. Et si vous allez me dire, ouais, mais c'est très. C'est un peu lourd. Ah, d'accord. Alors, moi, je pose une seule question. Pourquoi les gens que tu admires et qui t'attirent, c'est justement les gens qui ressemblent à ça? T'as déjà vu un type qui est admiré parce qu'il dégoûte? Et là-bas, que tu n'as pas envie de jouer ce rôle-là. Mais tu comprends que les gens bien, ils sont comme ça, et tu veux que tes enfants, ils soient comme ça. C'est pour ça qu'on ne veut jamais pour nos enfants ce qu'on veut pour nous. Pourquoi on se déchire avec nos gosses? Parce qu'eux, ils voudraient avoir la liberté de faire ce que nous, on a pu faire. Eux, non. Mais nous, on sait que ce qu'on a fait, c'est pas bien. Alors l'enfant, il dit, chacun son tour. Chacun son tour d'être brel. Il dit, mais mon fils, croisant mon expérience, justement, elle m'intéresse, ton expérience. Je vais l'expérimenter, ton expérience. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, quelqu'un, regardez bien, il n'a pas trouvé le langage pour que sa conscience, à l'époque de l'épreuve, elle lui explique ce qui était pas bien. Et bien, cette conscience-là, il ne la trouvera pas non plus pour expliquer à ses enfants que c'est pas bien. Puisqu'au fond, il ne le contient pas. Pour lui, c'est de la culture. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la maturité, c'est que tu es devenu ce que tu penses. Donc, il n'y a plus d'écart. Mais comme la personne, elle ne devient pas ce qu'elle pense, donc elle ne comprend pas pourquoi son fils ne vit pas comme elle pense, mais elle-même ne vit pas comme ça. Par contre, la personne qui vit comme elle pense, donc chez l'enfant, il n'y a pas de contradiction entre la pensée et le vécu. Donc lui-même, sa conscience, elle lui dira, mais ça ne se fait pas. D'où est-ce qu'il sait l'enfant que ça ne se fait pas? Parce qu'il a vu que ça ne se faisait pas. Donc ça ne sert à rien de jouer de la morale. Si l'enfant, il n'a même pas l'idée de le faire. Ça lui vient même pas l'idée. Pourquoi? Parce qu'il a vu Gadlout à Adam. Il a vu la grandeur. Il a vu la grandeur de l'homme. Comme il a vu la grandeur de l'homme, l'enfant. Mais s'il a vu la petitesse, plus la culture, option. Il dit, ben moi aussi, je vais faire pareil. Je vais faire la petitesse, plus la culture, option. C'est marqué aussi dans Sanhedrin Daf Kaftet Amoud Alef. Regardez bien. Obeyoum al-Ede Mammon. Maintenant, ça c'était les témoins qui vont témoigner sur un meurtre. Mais les témoins qui vont témoigner sur de l'argent. D'accord? Maurice dit qu'il a emprunté 3000 francs. D'accord? Et Jean-Jacques il dit qu'il les a rendus. Alors, il y a les témoins qui disent, qui viennent pour dire que Maurice a donné, a emprunté de l'argent. Ils viennent pour accuser donc d'une dette. Regardez ce qu'il dit. La Gemara dit. Sheyev Charle Aim Aleem. On ne peut pas leur faire peur. Pourquoi? Il dit, si on va dire aux témoins, vous savez, quand on fait un faux témoignage sur de l'argent, alors la pluie, elle s'arrête de tomber et la grêle, elle tombe dans le monde. La Gemara, elle dit, ils ne vont pas écouter les témoins. Pourquoi? Regardez bien. Chacun, il va dire, bah, franchement, tu crois qu'à cause de mon petit témoignage sur Maurice, qui doit 1000 francs, même s'il est faux ce témoignage, tu crois que franchement que la grêle elle va tomber? Et même si elle tombe, elle va tomber sur le monde entier à cause de moi? Allez, t'exagères. Alors la Gemara dit, alors qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va dire aux arguments, comme argument, aux témoins, hein, pour être certains qu'ils ne font pas un faux témoignage? Regardez ce qu'elle dit la Gemara, c'est horrible. Vous êtes tous assis là? Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Et la omrim la haem, ça a déchacré à Ougrayou Zilé. Les faux témoins, aux yeux de ceux qui les ont payés, ils sont méprisables. Ceux qui ont payé, même pas les autres. Comprenez ou non? Parce qu'il faut bien comprendre. Le relationnel qu'on entretient avec l'autre, c'est une relationnelle de quoi? D'intensité à intensité. Moi j'ai ma neshama, toi ta neshama. Moi, j'ai ma dignité, toi, ta dignité. Donc, quand moi, je viens chez toi, je te dis, dis-moi, tu pourrais faire un faux témoignage? Toi, tu dis, attends, je ne vais pas planter un copain quand même. Je vais dire un mensonge devant Dieu. En plus, je vais planter un copain. À cause de moi, il va aller en prison. Je ne peux pas faire ça. D'accord. Je te comprends, c'est normal, tu es humain, c'est un copain à toi, tu le connais bien et tout. Bon, 10 000. Déjà, tu as oublié Dieu déjà. Tu dis, ah non, mais tu comprends, c'est un copain. Ça, tu dis plus Dieu, je ne suis pas assez assourd. Tu dis, ah non, mais je ne peux pas, c'est un copain et tout. Tu as raison, c'est un copain et tout. 20 000. 20 000. 20 000, 20 000, 20 000, tout de suite? On est devant le tribunal. 30 000. Eh bien, tu vois le jour, ou le moment, ou la seconde, où tu vas dire comme ça, tu vas faire comme ça. C'est horrible. Par exemple, il va arriver à 45 000. Tu vois, quand tu as fait comme ça, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Il y a un effet de bascule. Vous connaissez la bascule? Vous n'avez jamais pesé quelque chose? Vous prenez une pierre, vous ne savez pas combien elle pèse. Alors vous mettez un poids de l'autre côté, vous mettez 100 grammes, 200, 300, à 1 kg, ça vibre un peu. Vous mettez 1 kg 2, 1 kg 3, et à ce moment-là, il y a quelque chose d'horrible qui se passe. Ça bascule, et la pierre, elle se lève. Ça veut dire quoi? Le poids, c'est quelque chose d'abstrait, c'est ce que contient la pierre. On ne peut pas le définir. Quand vous mettez un contrepoids, vous définissez le poids de la pierre. Cette personne-là, elle pèse combien? Elle pèse le poids de sa dignité. Combien ça pèse une dignité? Tu dis la dignité, mais c'est incalculable. C'est ce que c'est la dignité? La dignité, c'est la projection de l'aneshama dans le monde. Donc quand un type, il craque à 45 000, c'est-à-dire que sa aneshama, elle vaut 45 000. 45 000 francs. Pour 45 000 francs, tu es devenu un chien. T'es un chien. Oui ou non? Mais non. Comment le type il a pu accepter? C'est pas simplement parce qu'on lui a donné de l'argent. C'est parce qu'il a fait un espèce de pacte avec la personne qui lui donne de l'argent et qui lui a dit, je sais que ça fait mal, je sais que c'est pas bien de faire ça, je sais que c'est difficile pour toi. Mais bon, il se trouve que moi j'ai de l'argent et que j'ai besoin. Il se trouve que toi tu n'as pas d'argent et que tu as besoin. Alors viens, entre nous, on fait un pacte. Ça veut dire que quelque part dans cette acceptation, même s'il y a quelque chose d'horrible, mais il y a aussi une espèce de connivence qui va se créer, même au plus profond de la psychologie, que le type, tu as vraiment l'impression de lui rendre service. Parce que c'est pas simplement les 45 000, c'est aussi que quelque part tu lui as rendu service. Mais si la même personne avec laquelle tu as fait un pacte, elle te regarde dans les yeux, elle te dit t'es un clébard. T'es un chien. T'es un chien. Je vais pas te donner 45 000. Je vais te donner 90 000. Je vais te pourrir. Je vais te mettre 100 000. Je vais te mettre 110 000. Et chaque franc, ça t'enfonce dedans. La tête dans le khalwa, comme ça. Avec les pieds. Je te mets comme ça. Et jusqu'à ce que t'en manges. Je dis, voilà ce que t'es. T'es de la khalwa. C'est ce qu'a dit la Gemara. On leur dit aux témoins, aux yeux des gens qui vous ont payé, vous êtes méprisables. Et longtemps, j'ai eu du mal à comprendre cette Gemara. Si on disait aux témoins, vous savez, on va le dire à toute la ville, les gens, ils diraient, c'est pas grave, parce que moi, je suis avec les forts, moi, je suis avec lui qui a de l'argent, et toute la ville, je m'en tape. Donc, l'image des autres, ils s'en tapent. Mais lui, c'est lui qui est avec lui, vous comprenez ou non? C'est comme le type avec qui tu t'aimais, il te plante au dernier moment, il dit, non, moi, je le connais pas, moi. Est-ce que vous suivez, là? On vient à une bande de 40, on va éclater un mec. Il est fort, mais on est 40. Imagine les 39, ils disent, oh non, nous, on n'a rien à voir. Alors, tiens, 12 dames de taekwondo, tiens. Je vais t'écarteler, mon enfant. Mais on était 40. C'est pareil. Au moment où la personne pour qui tu t'es prostitué, elle te dit, mais t'es une khalwa, bah, t'es mort. Pourquoi? Parce que non seulement que la référence positive de l'homme, elle doit être la dignité humaine, ouais, mais aussi la plus grande déchirure, elle est la destruction de la dignité. Donc quand quelqu'un tue, il a détruit sa dignité. Pourquoi dans les camps de la mort, ils rasaient la tête, ils donnaient des vêtements qui n'allaient pas, les grands ils leur donnaient des petits vêtements, les petits leur donnaient des grands vêtements. Ouais, ils leur mettaient des chaussures qui ne leur allaient pas, pour les faire boiter, ils leur mettaient un numéro. Pourquoi? Parce que le premier travail, c'était la dignité. D'abord, t'enlèves la dignité. Or, un homme, il a quatre pôles d'existence. Son nom, son image, sa parole et son acte. Le nom, il n'y en a plus, un chiffre. L'image, la tête rasée. La parole, t'as pas le droit à la parole. Les actes, aucune valeur. Tu creuses un trou, tu bouches le trou. Le trou que t'as creusé, tu le recreuses. Le trou que t'as bouché, tu le rebouches. Zéro, t'existes pas. Première chose, je te détruis. Ils ont bien compris comment ça marche. Un homme pour exister. D'ailleurs, tous ceux qui ont survécu, c'est des gens qui ont gardé la référence minimum de la dignité. C'est qu'ils ont dit, c'est eux les chiens et nous les hommes. C'est dur à dire ça. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de référence, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Et le type, il dit, c'est eux les chiens et moi les hommes. C'est fort quand même. Et ils s'en sont sortis. Alors que tout leur travail, c'était ça. Oui. Une fois, j'avais lu un livre, je me rappelle. Il y avait un capot, pas un capot, un allemand, je ne sais plus. Comme ça, quand ça lui prenait, il appelait un type. Il disait, tourne-toi, il tirait une balle dans la nuque. Et chaque type, il savait que ça allait lui arriver un jour, il attendait. Et l'allemand, il disait, viens ici, tourne ta tête, il tire un truc. Et ce type qui raconte, il dit, c'est arrivé sur moi un jour. Il a dit, j'étais comme un automate. Je suis arrivé, il m'a dit, tourne-toi. Je me suis retourné, j'ai senti le canon sur la nuque. Ah non, même pas ça, excusez-moi, je suis en train de dire une bêtise. Il a appelé, il est sorti du rang, il a dit, tourne-toi. Et l'autre, il a dit, non. Et le capot, il était tellement impressionné parce que jamais il y avait un type qui lui avait dit non. Il faut se rendre compte de comment on les a automatisés. Ça veut dire que tu n'existes plus, t'es rien, t'es un sac de viande. Tu mérites même pas la balle que je vais te mettre dans la tête. Pour qu'un type, il arrive à dire non. Et qu'un capot, une espèce de d'excroissance de chien, il a été capable d'être impressionné par ce non. Alors là, il devait être fort ce non. Alors il est retourné dans les rangs, il l'a laissé tranquille. Comment ça s'appelle ça? Gadlout à Adam. C'est la grandeur de l'homme. Un homme, il a une référence très très haute. Et la preuve, c'est que quand on lui enlève cette référence, il descend très très bas. Très très bas. Ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit, vous avez fait ça pour exister. Vous avez fait ça pour vous racheter une image. Vous avez fait ça pour gagner de l'argent. Mais vous êtes des bidons. Vous êtes des pauvres types. Les gens qui vous ont payé vous considèrent comme des pauvres types. Alors quel intérêt pour toi? Qu'est-ce que tu as gagné? Pourquoi faire? Faut que quand tu vas sortir du tribunal et tu vas lui dire on a gagné, il va dire je parle pas au pauvre type, c'est ça que tu veux? Tu vas être comme ça, tu vas dire oh, j'ai plus qu'à crever. Ce qu'il dit Rashi, Asocharim Otam, ceux qui les ont payés, mais vas-y Motam, ils les méprisent. Vekalim MBNM, ils sont légers, ils sont zéro à leurs yeux. C'est comme ça. Quelqu'un il doit comprendre que Cette dignité, c'est pas simplement une image comme ça, un principe de moralité. C'est un vecteur d'existence. Quelqu'un, il doit tenir la barre. C'est comme si quelqu'un, on lui propose de lui enlever son squelette. Il dit, mais je suis pas fou, non? Je veux pas devenir un invertébré. La dignité, c'est le squelette de l'homme. Donc, non seulement qu'il faut préserver sa dignité, mais il faut entretenir sa dignité. Et il faut développer sa dignité. Et c'est que comme ça que tu pourras t'en sortir, dans tout. Parce qu'au contraire, la vie, elle te pousse à être rien du tout. Allez, on est des riens, on est des chiens, on est rien du tout, allez. Allez, on y va tous, allez, on se met tout nu, allez, on se shoot, allez, on est... Donc, il dit, mais oh, 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 je suis un homme. Il dit, mais alors, allez, on est des chiens, allez. On n'est pas des chiens, excusez-moi, je ne fais pas partie de la bande. Quelqu'un, il a la force. Il dit, mais c'est un courant, c'est difficile, on est 5000 dans un hangar. C'est une soirée, il y a le rave au milieu, la soirée rave au milieu. Ouais. C'est dur. C'est très dur. Comment on peut lutter contre une influence comme ça? Mais c'est un choix, c'est toute la vie, c'est comme ça. Il y a bien un moment où le mur, il va te retenir, il y a bien un moment où tu vas te retourner, tu vas dire, oh, excusez-moi, je ne peux pas aller plus loin. La Gemara dans le Shabbat, elle dit comme ça. Non, il est trop tard, on va avancer un peu. Voilà. Il dit, cette notion, dit le Rafraim Shmulevitch, cette notion-là, qui s'est marquée dans la Gemara, que Toivat Hashem Kol Gevalev, c'est une abomination pour Hashem, toute forme d'orgueil. Et c'est vrai que la Torah, elle va mettre au plus haut niveau la modestie, et elle va descendre au plus bas niveau l'orgueil. Et c'est vrai que l'orgueil, c'est, elle dit la Gemara, c'est une forme d'idolâtrie. Et c'est vrai que l'orgueil, c'est une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Et c'est vrai que l'orgueil, c'est une des causes de toutes les fautes qui existent. Et c'est vrai que l'orgueil, c'est ce qui fait perdre à quelqu'un tous les niveaux qu'il a pu atteindre. Quelqu'un, il a pu atteindre des grands niveaux dans la croyance, dans la crainte de Dieu. Avec l'orgueil, il dit le Messie Ticharim, un homme, il peut tout détruire. Même s'il a construit un bâtiment de qualité, il peut tout détruire avec l'orgueil. D'accord ? Et nous, on est en train de dire que maintenant, un homme, il doit réussir à avoir de la fierté, il doit se prendre pour quelque chose, c'est embêtant. Alors, il y a deux approches. Première approche, c'est quoi ? C'est qu'un homme, il n'a pas à se prendre pour quelque chose. Il est quelque chose. Ça s'appelle la connaissance de soi. Quelqu'un, il sait qu'il est bon dans un domaine. Il est bon. Pourquoi il est bon ? Pas parce qu'on lui a dit qu'il est bon. Parce qu'il a travaillé dessus. Il a travaillé là-dessus. Il sait qu'il est bon. Il est bon. Il n'a pas d'orgueil là-dessus. D'accord ? Ça, c'est au niveau de l'acquis. Après, il y a le niveau ambition. Alors là, c'est clair que ça devient un petit peu bizarre. Moi, je suis ici, d'accord ? Et je dis, tu vois, il y a un trou de 4 mètres. Alors, je dis, bah, tu vois, moi, je peux le sauter, ce trou. Alors, je dis, mais qu'est-ce que t'en sais ? Quelle différence entre l'ambition et l'orgueil ? C'est quoi l'ambition ? C'est une projection dans l'avenir. C'est quoi l'orgueil ? C'est une projection dans l'avenir. Dis-moi, tu t'avances un peu ? Comment on dit en français, tu te la joues ? Tu te la joues ? Tu te la joues un peu ? Alors, on est tous d'accord qu'il y a des choses qui sont impossibles. On est tous d'accord qu'il y a des choses qui sont évidentes. Le problème, il est entre les deux. Dans les choses qui sont possibles, est-ce que j'ai le droit de m'enorgueillir ? Ça s'appelle un engagement. Est-ce que j'ai le droit de m'engager sur des choses que je n'ai pas encore vécues ? Bah, tu dis, mais c'est normal, ça s'appelle l'ambition. Au contraire, je vais dire mieux encore. C'est quoi le moteur qui fait que de hier, j'arrive à demain ? Qu'est-ce qui fait que de 1m60, j'arrive à 1m80 ? C'est l'ambition. Mais l'ambition, c'est quoi ? L'ambition, c'est une projection virtuelle de mon potentiel. Je dis, mais là, 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 c'est quoi ça ? Quelle différence avec l'orgueil ? C'est pareil. C'est quoi l'orgueil ? C'est ce que c'est l'orgueil ? C'est très simple. Un homme, il contient une âme. Cette âme, elle est infinie. Oui ? Pour exister, exister en français, ça veut dire être à l'extérieur. C'est que mon âme, elle s'exprime dans le monde extérieur. Maintenant, quand mon âme s'exprime dans le monde extérieur, ça s'appelle l'existence. C'est nécessaire, tout le monde a le droit d'exister. Ah, mais non, le problème, c'est comme ça. C'est qu'il faut gérer les tentatives d'existence pour qu'elles soient entre certaines limites qui sont raisonnables. Si quelqu'un dit, tu vois, je vais prendre le train. Oui, d'accord. Je vais prendre le TGV. Bon, ça peut arriver. Hein. Je vais prendre le TGV à Percheval. Percheval. Tu vas prendre le TGV à Percheval. C'est où Percheval ? Percheval, c'est entre Paris et Lyon. Tu vas prendre le Percheval. Ah bon, mais il n'y a pas de gare à Percheval. Oui, je sais, mais je vais prendre le TGV à Percheval. Tu sais que à la moitié de la route, le TGV il roule à 302 km/h. Je sais, mais je vais prendre le TGV à Percheval. Tu penses pas que c'est plutôt le TGV qui va te prendre ? Ou que tu vas te prendre le TGV ? C'est pas possible. Donc, si quelqu'un y rêve plus de ce que dont il est capable, c'est cet orgueil-là qui est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à comprendre une chose. Je vous l'avais dit déjà, mais il faut que je vous le répète. La Torah, elle a donné l'enfance. Pourquoi Dieu il a créé l'enfance ? Pour que l'enfant puisse développer l'imagination. Pourquoi il a développé l'imagination ? Parce que l'imagination, c'est le devenir. Parce qu'avant de réaliser quelque chose, il faut le virtualiser. La capacité de virtualiser dans le temps s'appelle l'imagination. Donc l'enfant, il va développer cette capacité qui, chez l'adulte, va devenir l'ambition. Mais non, il y a un piège dans l'imagination. Ça peut devenir l'illusion. Quelle différence entre l'illusion et l'ambition ? Les deux, c'est virtuel. Les deux, c'est un rêve. Très simple. C'est que l'ambition, c'est que tu es prêt à te donner les moyens de réaliser ton rêve. L'illusion, c'est quoi ? C'est que tu te suffis de l'élaboration de ton rêve. Par exemple, il y a des gens qui se fabriquent des illusions extrêmement sophistiquées. Jusque dans les moindres détails. Eh bien, ça leur suffit. Ils sont bien. On appelle ça des paresseux. C'est quoi un paresseux ? Les gens, ils croient que les paresseux, c'est des incapables. C'est faux. Les paresseux, ce sont des gens qui arrivent à virtualiser ce que toi, tu vas atteindre après des années de travail. Donc, ils se disent, mais pourquoi faire? Pourquoi je vais travailler pour avoir une certaine sensation qui s'appelle l'accession à une réalité, mais moi, je la virtualise maintenant dans mon canapé. Pourquoi je vais me prendre la tête? Oui ou non? Ah, une différence très grave. C'est que l'accession réelle, elle donne la satisfaction. Mais l'accession virtuelle, elle donne la dépression. Parce que quand tu rêves, tu as deux solutions. Ou le rêve continue, ou le rêve s'arrête. Mais si le rêve s'arrête, il y a confrontation entre la réalité et le rêve. Et ça s'appelle la déception. Or si déjà, quand je vieillis avec l'autre, et que l'autre, il me montre une autre réalité que celle que je croyais, moi je dis, je suis déçu. Alors si, imagine que souvent un homme, il vit proche de lui-même. C'est rare quelqu'un qui vit loin de lui. Donc si quelqu'un, il vit avec lui-même et qu'il s'aperçoit que son rêve, il est loin de sa réalité, qui c'est qui va le retenir dans sa déception? S'il y a bien un moment ou un autre, la réalité, elle va revenir. Vous comprenez ou non? Tant que le film, il dure, tu dis, oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors il achète des films longs. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Des sagas. Mais à un moment, le film, il est terminé. D'accord? C'est fini, Laurence d'Arabie, tu sors dehors, t'es à la Courneuve, il pleut. Tu dis, où sont les parfums? Où sont les... C'est fini. Les 4 heures route, mon vieux. Aubervilliers à droite, la Courneuve à gauche, Abdel devant. Tu bouges pas! Ouais. Donc l'illusion, c'est un exercice extrêmement dangereux. Mais malheureusement, à cause du libre-arbitre, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de donner et l'ambition et l'illusion. Mais l'ambition, c'est quoi? C'est que moi, regardez bien, je projette dans l'avenir. Je fais un essai, hop, je projette. Et j'essaie de réaliser mon rêve. Mais ça s'appelle de l'orgueil. Parce que si l'orgueil, c'est une forme d'existence qui est nécessaire, mais qui n'est pas contrôlée, le respect de soi, c'est une forme d'existence qui existe, mais qui est contrôlée. C'est-à-dire que quand quelqu'un se dit « Aujourd'hui, je suis capable de ça. Demain, je suis capable d'un peu plus. » Oui ? En vérité, il est en train de faire un pas devant. Mais regardez un enfant, il veut marcher. D'accord ? Il est comme ça. Il est tout bébé. Il dit « Tiens, j'ai envie de faire un pas de plus. » Je dis « Mais pourquoi tu vas faire un pas de plus ? T'es bien, non ? Pourquoi tu vas prendre le risque de tomber ?» Mais il dit « J'ai envie d'avancer. » Mais non. On n'a pas dit qu'il va faire l'Everest, mais non. Il va marcher jusqu'au bout de la salle à manger. C'est ça l'intelligence. Un homme dans sa vie, il doit se dire « Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller au bout de la salle à manger. » Qu'est-ce qu'ils font les fous? Ils disent « Moi, je vais faire l'Everest. » Il veut prendre le TGV en marche à Percheval. Et après, ils disent « J'ai pris des claques dans ma vie. J'ai été déçu. Celui-là, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Celui-là, tu sais pas ce qu'il m'a fait. » Ils en veulent à tout le monde. Ils en veulent à Dieu. Ils en veulent. Mais on t'a rien fait, personne t'a rien fait. Rien fait, vous comprenez ou non? Le mec, il a un BEP de tourneur. Il rentre chez Rune Poulin qui dit, voilà, je voudrais un rôle de responsabilité, minimum vice-président. Il dit, excusez-moi, je peux pas vous prendre. Voilà, tu dis, c'est comme ça que vous traitez les hommes. Écoutez, je vous en veux pas, mais regardez, regardez le monsieur qui sort là. Il est bac plus 26. On le prend pour manque d'expérience. Vous, vous êtes bac moins 26. Je sais pas si vous sentez le truc. Je peux pas vous prendre. Là, tu dis antisémite. Dis, je crois que vous êtes en train de me faire un procès antisémite. C'est un sale antisémite. C'est pas possible. Dis pourquoi. Je m'appelle Choucroune. Qu'est-ce qu'il fasse? Alors, les gens, ils font comme ça. Ils lancent le grappin trop loin. Le grappin, il tombe, ils se font mal aux pieds et ils disent « Pourquoi il m'est tombé dessus ?» Toute la vie, c'est comme ça. Ben, c'est typique, frère. Tu fais 2 mètres. Tu fais 2 mètres, combien tu vas monter? 4 mètres! Allez, c'est bien! Allez, jette à 4 mètres. Il dit « Non, moi, je jette à 174 mètres. » Le grappin, il va te retomber de 174 mètres sur la tronche. Il va t'éclater la tête. Tu dis « Oui, mais il vaut mieux avoir des grands rêves que des petites réalités. » C'est vrai, et la moitié, et le milieu. Vous comprenez ou non? Les gens, ils sont prêts à se mettre en quatre pour faire des grandes choses. Tu dis, mais t'as pas compris, mais d'exister, c'est une grande chose. Il veut faire des grandes réalisations. Mais exister, c'est une grande chose. Il y avait un type qui travaillait au joint, comment on dit ? Au joint. Ouais. Il m'a dit, moi, cette année, je vais organiser un Pessah pour les Juifs de Budapest. Il m'a dit, on va se mettre là-bas. Il y a des vieux qui n'ont pas eu un Pessah depuis 40 ans. Et on va les réunir à 50. Et on va leur donner les matzot. Et on va dire ensemble, Alachma Anaya. Je lui dis, dis-moi, t'es marié ? Il m'a dit, oui. Je lui dis, depuis combien de temps ? Il m'a dit, l'année dernière. Je lui dis, tu vas laisser ta femme ? Il me dit, ouais, parce que tu comprends, on ne peut pas emmener tout le monde. Je lui fais, tu vas laisser ta femme, première année de mariage, et tu vas t'occuper de Budapest. Tu sens pas que tu t'es un peu gouré de messages ? C'est vrai que c'est plus facile d'aller à Budapest, faire plaisir à des petits vieux, que de faire plaisir à sa femme, c'est vrai. C'est pourquoi ? Parce que c'est acquis. Tu crois que c'est acquis ? Ça ressemble à elle-même. Il n'y a rien d'acquis, mon frère. La preuve, elle est partie. D'accord ? C'est exactement pareil. Donc quelqu'un, il comprend. Une ambition, c'est quoi ? C'est ce qui est possible. Une ambition, c'est un moyen que tu te donnes. Tu as le droit d'exister, tu as le droit de rêver. Tant que ce rêve-là, il est dans le cadre du réalisable. Le fait de se donner un choix, le fait de se donner une possibilité, on appelle ça le respect de soi. Et c'est vrai que tu as le droit d'exister. Alors donne-toi le droit d'exister. Comment s'appelle ça ? Ça s'appelle Vaikba Libo Bedarke Hashem. Un homme, il doit élever son cœur dans le chemin de Dieu. Alors l'Agma a dit, mais c'est pas possible, puisque Gevalev, c'est orgueilleux. C'est interdit l'orgueil. Oui, mais dans le chemin de Dieu, c'est permis. Vous savez pourquoi ? Parce que un homme en vérité à l'intérieur de lui-même, il a un potentiel qui est infini. Le problème, c'est que ce potentiel qui est infini, quand tu l'exprimes dans la matière, il peut t'emmener nulle part. Mais quand ce désir d'existence, tu le mets à l'intérieur d'un cadre qui est très défini, qui s'appelle la Gemara ou la Halakha, t'en fais pas, les freins ils sont à l'intérieur. Vous comprenez ça ou non ? Quand quelqu'un dit par exemple, tiens moi, j'ai envie d'être le Gaon de Vilna, on dit, hé, hey, là, il se prend pour qui celui-là ? Vous en faites pas. Dès qu'il va commencer la première page de Gemara, il va se calmer. Il va dire, bon, je ne vais pas être le Gaon de Vilna, je crois que je vais être le Rosh Yeshiva de Telz. Deuxième page de Gemara, il va dire, oh, je ne vais pas être le Rosh Yeshiva de Telz. Je crois que je vais être le Mashgiach de la Yeshiva de Brunois. Troisième page, il va dire, oh, je ne crois pas que je vais être le Mashgiach de la Yeshiva de Brunois. Je crois que je vais être le cuisinier de la Yeshiva de Saint-Maur. Ah, cinquième page, il va dire, oh, je ne crois pas. Je crois que je vais être le concierge du rabbin de des Tournelles. Ça veut dire quoi ? T'en fais pas une chose. Le chemin de la Torah, il est tellement structuré que les accidents d'existence, ils sont peu probables. Comprenez ou non ? Quand tu te lances dans le monde et qu'il n'y a pas de référence, si tu te mets à avoir de l'orgueil, ça veut dire que tu veux exploser. C'est vrai que tu veux grandir, mais que tu n'as pas de limite. Alors là, tu pars n'importe où, tu t'évapores. Il n'y a plus de limite. Dans n'importe quoi, dans le fric, dans les trucs, n'importe quoi. Mais quand tu le fais dans le chemin de la Torah, c'est tellement structuré. Parce qu'il faut comprendre une chose. Tu dis, je veux faire partie des grands. Mais Béravod, la porte est ouverte, il dit le Rambam. La couronne de la Torah, elle est disponible. Ah bah vas-y, assieds-toi, vas-y. Même à Paris. Paris, oh, Paris, oh, pff, la France à côté, et Eretz Israël. Même à Paris, tu veux t'asseoir. Rave, ouais, vas-y, assieds-toi. Vas-y, oh, t'es là, tu... T'oses même pas t'asseoir. Nous allons poser un problème. Alors, on va faire un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comprenez ou non ? Lui, il connaît tout le chasse. Lui, il connaît tout le Shranaur. Lui, il connaît... Et toi, qu'est-ce que tu connais ? Dis-moi, moi, je connais Paris Match. Mais à l'envers de l'endroit. Hein. C'est vite fait. Hein. C'est vite fait le tour. Parce que là, il y a des références. Comprenez ou non ? Il y a des références. Si un mec, il se met une balafre ici et qu'il est un peu connu, ça peut devenir une mode. Parce que dans le monde, il n'y a pas de référence. Si quelqu'un il se met à manger des excréments tous les matins, il peut même dire que c'est bon pour la santé et on va l'écouter. Moi, je suis sûr que si demain, Il y a, je sais pas moi, prenez-moi un brel qui se vend bien. Hein? Bruel. Oh, Bruel est un peu léger en ce moment. Hein. Voilà, imaginez que Michael Jackson, tous les matins, il va dire qu'il a fait une cure d'excréments et que ça lui a fait du bien. Combien vous, au moins 100 000 personnes, ils vont en manger tous les matins. Je suis sûr. Si vous allez dire, ils vont mettre du sucre. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes dégoûté? D'abord, je ne vous ai pas dit des excréments de quoi. D'accord? Pas être dégoûté dans la vie. Encore une fois, il ne faut pas être dégoûté. Parce que si vous êtes dégoûté et que vous regardez ce que nous on fait tous les jours, vous allez être horrifié. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez la mode, maintenant ils se mettent des chemisiers hyper serrés. Hyper serrés, hyper serrés. Alors c'est obligé que ça s'ouvre. Alors avant les gens, ils mettaient une pince quand ça s'ouvrait. Enfin les filles, hein, je parle. Maintenant, ça s'ouvre. Tu dis mais ça te sert pas, tu dois suer comme ça, c'est serré là. Voilà. Vous comprenez ou non? Des dessous qui serrent, des pulls qui serrent, des chemisiers qui serrent, mais qui serrent. On va éclater les boutons. Ça ne te dérange pas d'être... Bah, tu dis, non, c'est la mode. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais jusqu'où il faut leur mettre la tête dans la boue pour que les gens ils ouvrent les yeux? Hein? Vous comprenez ça? C'est quoi la limite? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Des chemisiers biodégradables qui fondent au soleil? Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas, je connais pas la limite. Moi j'attends. Je connais des stylistes du sentier, je vais aller leur donner des idées. Je vais leur dire, et si tu lançais la mode et... D'accord? La jupe qui au bout de 30 degrés elle se lève comme ça. Toutes les filles avec un thermomètre dans les mains. Eh bien, tu verras que les gens, ils les mettront. Ils les mettront. La jupe portefeuille, c'est extraordinaire, ça. C'est une jupe, il faut acheter la jupe avec de la pommade. Vous savez pourquoi? Pour les crampes, parce que tu la tiens toute la journée. Il faut mettre de la pommade. Parce que tu la tiens toute la journée. Et là, tu la tiens plus. Ah, c'est bien, c'est bien. Pour en faire un métier. C'est pas possible. Eh, limite quand même, jusqu'où on peut se moquer des gens? Jusqu'où on peut se moquer des gens? Là, c'est le Ramban. Parce que c'est marqué dans le pasouk, Vayavou, Kol Ish Asher Nasu Libo. Quand Akjboukhu a voulu construire le Mishkan, il a voulu construire le tabernacle qui était dans le désert, il a fallu prendre des hommes. Alors nous, on a cru, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre des orfèvres, il va prendre des bijoutiers, il va prendre des menuisiers, il va prendre des ébénistes. Non, c'est marqué, Vayavou, ils sont venus tout homme Asher Nasu Libo, dont le cœur s'est élevé. Il dit le Ramban. C'est pas des spécialistes qui sont venus, c'est pas des orfèvres qui sont venus, c'est pas des bijoutiers qui sont venus, c'est qui? C'est des gens qui ont senti qu'ils voulaient le faire. Tu dis, mais attends, je comprends pas. Moi, je vais jamais rentrer dans une bijouterie, je vais dire, donnez-moi un chalumeau. Jamais, je vais essayer de faire ça. Jamais. Je vais rentrer chez un ébéniste, je vais dire, donnez-moi une commode. Ouais, une commode du 15e, et je vais vouloir taper. Je vais la massacrer. Déjà, un meuble de confo, déjà, tu l'éclates. Alors imagine, une commode. Du 15e siècle. Et pourtant, ils sont venus, ils ont réussi. Il dit pourquoi le Ramban? Parce que Vaikba, Libo, Libam, Bedark Hashem. Ça veut dire quoi? Ton potentiel, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne sais pas de quoi tu es capable. Pourquoi tu vas y arriver? Parce que tu vas te donner le droit d'y arriver. Comment s'appelle se donner le droit d'y arriver? Ça s'appelle se donner le droit d'être. Parce que l'existence, c'est juste de se révéler dans le monde extérieur. Mais pour y arriver à se donner le droit d'être, il faut se respecter. La dynamique du respect, c'est pas simplement que quelqu'un il pense qu'il a déjà une valeur. C'est que cette personne-là, elle pense qu'elle a une valeur dans l'avenir. Le respect de soi, c'est de penser qu'on a le droit à l'avenir. On a le droit d'exister. De la même manière que quand moi je respecte quelqu'un d'autre, ça veut dire que je lui donne le droit d'être. Quand je respecte quelqu'un, encore une fois, je respecte sa parole, je respecte ses idées, je respecte son nom, je respecte son image. De la même manière, moi aussi, je vais me donner le droit de me respecter. Je vais me donner le droit d'exister. Donc, De la même manière que lui, il va sortir de sa caverne. Moi aussi, je vais sortir de ma caverne. Je vais dire quelque chose. Oh, je vais dire, oh, que ça sert de le dire, c'est une bêtise. Pourquoi c'est une bêtise? Mais pourquoi c'est une bêtise? Il faut que moi, je me parle à moi-même et moi, je me dise, mais pourquoi pas? Pourquoi j'y arriverai pas? Ouais. Je dis, oh, mais lui, il est intelligent, lui. Lui, il a eu de la chance parce qu'il a, plein de il a un cerveau. Et alors? Il a bossé, non? Il a travaillé. Lui, il a de la chance parce qu'il a une famille équilibrée. Et alors? Tu vas rééquilibrer. Lui, il a une jeunesse heureuse. Et alors? Dans tout, c'est comme ça. Le respect de soi, c'est qu'une personne comprend que chacun a le droit d'exister. Donc, quand elle décide de se donner un avenir, c'est qu'elle s'ouvre une porte. Et si elle va dire, mais qui a dit que j'en suis capable? Alors, moi, je te pose une autre question. Qui a dit que tu n'en es pas capable? Pourquoi tu t'es condamné d'avance? Vous allez me dire, mais c'est normal. Parce qu'on a peur de rater. Mais je ne comprends pas. Entre ne pas essayer et ne pas réussir, vous avez la différence entre les deux? Celui qui n'a pas passé l'examen, il a raté ou il a réussi? Celui qui n'a pas passé l'examen. Si je vous disais un truc rigolo, les trois quarts des gens y pensent que celui qui n'a pas passé un examen, il ne l'a pas raté. Comme ça on pense. Même si on dit le contraire, on dit non, s'il n'a pas l'examen, s'il a pas passé l'examen, il a raté. Parce qu'il n'a pas passé l'examen. Oui, je suis d'accord avec vous, au niveau logique. Mais dans la vie, on ne pense pas comme ça. La preuve, c'est qu'on ne veut pas prendre des risques. Pourquoi quelqu'un ne veut pas prendre de risques? Pourquoi il ne veut pas se mouiller? Parce qu'il dit, attends, tu te mets en avant. Et si tu te plantes? Alors que quand tu ne te mets pas en avant, tu as le bénéfice du doute. Personne ne va te juger. Personne ne va te regarder. Personne ne va te mesurer. Parce que tu restes dans ta carapace, t'attends. Tu n'existes pas. Mais le monde, il a été créé pour que tu existes. Tu dis, mais j'y arrive pas. Tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu ne te respectes pas. Je dis, respecte-toi. Qu'est-ce que tu diras à ton fils? Vas-y, alors vas-y. Tu dis, mais moi, je ne suis pas mon père. T'es ton père. T'es ton père et ton fils. Chacun d'entre nous contient un enfant et un adulte. Vous le savez, non? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous vous rappelez de ça? Non? Oh, c'est dommage. Rappelez-vous de ça. Un homme de 44 ans, c'est un enfant de 45 ans. Un homme de 44 ans, c'est un enfant de 45 ans. Puisque un homme de 44 ans contient un homme de 45 ans qui n'est pas encore né. Donc pour l'instant, il est enfant. Mais demain, il va naître. Un enfant, il contient un adolescent. Un adolescent, il contient un adulte. Un adulte, il contient un père. Un père, il contient un grand-père. Qu'est-ce qu'on fait toute sa vie? On s'accouche soi-même. Donc, puisqu'un homme, il contient toujours une réalité et un potentiel. Donc, de quoi ça vous gêne de dire que la réalité, elle va dire au potentiel? Eh ben, vas-y. Mais vas-y! Accouche! Oui ou non? Alors, le potentiel, il dit, mais pourquoi je vais prendre des risques? Moi, je suis bien ici, regarde. J'ai une respectabilité, les gens me prennent pour quelqu'un de bien. Pourquoi je vais encore me remettre en cause? Je vais encore grandir. Je dis, mais pourquoi tu es quelqu'un de bien? Parce que justement, tu as pris des risques. Pourquoi on te respecte? Parce que tu existes. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui nous attirent, ce sont des gens qui existent. Qui dit, oui, mais on peut exister bien, exister mal. On peut exister mal, les témoins. On peut exister bien, on construit le tabernacle. C'est vrai. Mais celui qui n'existe pas, il a tout raté depuis le départ. Alors qu'est-ce que ça peut te faire? Donc le père, il va dire à l'enfant. L'homme, il va se dire à lui-même, mais j'ai le droit de m'en sortir. Oui ou non? Si quelqu'un il vient chez moi, il me dit, toi, t'es un clébard, baisse la tête, marche à quatre pattes, je vais te mettre une laisse. Qu'est-ce que je fais? Je lui mets un coup de poing en pleine tête. Alors quand moi-même, je me dis à moi-même, je suis un clébard, je ne peux pas me dire non. Quelle différence? Oui ou non? Les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Ils disent, j'ai pas confiance, j'y arriverai pas, de toute façon, je suis incapable. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils veulent jouer la victime, parce qu'ils veulent que l'autre dise, mais non. L'autre dit, mais si, mais non. Mais il y a des gens, tu as envie de leur dire, crève. Et tu dis, mais pourquoi tu me parles comme ça? Crève. Parce qu'ils attendent que ça, en vérité. C'est vrai ou non? Tellement c'est dur de vivre, tellement c'est facile de mourir. Alors, t'es obligé. Tu les encourages à exister. Tu dis, mais non, ça va aller, bon, c'est possible. Bah, quand tu te prends la tête, regarde, franchement. Regarde, c'est rien. C'est vrai, mais normalement, ce travail, c'est à toi de le faire. Il faut que l'adulte qui contient l'enfant, il dise à l'enfant, tu tu vas y arriver, c'est rien du tout. Pourquoi t'as pas eu 42 ans? T'as pas eu 42 ans? T'as pas eu 43 ans? Alors t'auras 45 ans, quelle différence? Quelle différence? De quoi t'as peur? Ce droit d'être que tu vas te donner s'appelle le respect de soi. Et ça, c'est la dynamique de l'existence. Tant que quelqu'un, il n'a pas, regardez bien, démarré le phénomène, tant que quelqu'un il n'a pas maintenu le phénomène, tant que quelqu'un il n'a pas dynamisé le phénomène, il est en danger de mort. Ben, c'est normal. Puisque la vie, c'est l'existence. Et la mort, c'est la non-existence. Donc celui qui passe pas l'examen. Or, toute la vie, c'est un examen. Vous savez, les gens, ils disent, j'ai eu des épreuves. J'ai eu des épreuves. Je dis, oui, Baruch HaShem. Moi, tu dis, mais attendez, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous savez ce que j'ai vécu? Je dis, mais si vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, entre nous, bon d'accord, on va pleurer ensemble, on va discuter, on va s'asseoir, on va pleurer, on va faire un mémorial de la douleur, on va partir pour la déportation des gens comme vous qui n'ont pas eu la chance d'avoir une belle voiture. D'accord. Mais sauf, en vérité, objectivement, c'est quand même grâce à ces épreuves que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Ah, tu dis, ah, je peux pas le nier, ça, je peux pas le nier. Alors il dit, mais j'aurais préféré que ça se passe autrement. Donc c'est le type, il dit, moi j'aurais voulu avoir 20 mais sans passer l'examen. Mais t'as pas compris mon frère. Le monde de l'enfance, c'est le monde du rêve. Et le monde de l'adulte, c'est le monde de la réalité. Une épreuve, c'est une potentialité d'existence. Or un accouchement, qu'on le veuille ou non, ça fait un peu mal. Oui ou non, vous savez pourquoi? Parce que dans les trois quarts des cas, le bébé, il est plus gros que l'ouverture par laquelle il doit passer. Parce qu'on ne s'est pas préparé. On ne s'est pas préparé. Et toutes les sages-femmes, elles vous le diront. Madame, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Laissez faire le corps. Parce que les hormones, elles vont grandir, elles vont grandir, elles vont grandir l'ouverture. Et le bébé, il va sortir normalement. Mais comme la maman, elle est pressée, elle veut vite avoir son petit bébé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Une épisio. Mais toutes les sages-femmes du monde, elles vous le diront. Madame, votre corps, il est adapté à la taille de votre bébé et la dose d'hormones, elle est adaptée à votre col. Si vous attendez ce qu'il faut, le col, il va s'ouvrir et vous allez sortir. Mais dans la tête, la mère, elle dit non, vite, ça fait 9 mois, ça suffit. Mais madame, c'est encore une heure, encore un quart d'heure. Non, et bien c'est pareil. L'épreuve, c'est quoi? C'est que moi, je contiens un bébé. Je contiens un bébé, c'est ma future personne. C'est la personne qui va sortir grâce à l'épreuve. Qu'est-ce que c'est l'épreuve? C'est un accouchement. Donc Dieu, il met une épreuve en face de moi. Moi, pour, regardez bien, pour assumer cette épreuve, il faut que je m'accouche de quelqu'un qui peut assumer cette épreuve. Donc qu'est-ce que c'est une épreuve? Une épreuve, c'est une potentialité d'existence, c'est-à-dire un exercice de fabrication de maturité. Maintenant, il y a des gens qui s'y voudraient. Ils voudraient accoucher toute leur vie avec péridurale. On ne peut pas. On ne peut pas faire tout avec péridurale. Tes parents, ils t'ont aménagé ta jeunesse. D'accord? Tes copains, ils t'ont aménagé ton adolescence. Ta femme, elle t'a aménagé ton rôle de père et ton rôle d'adulte. Tes secrétaires de direction, elles t'ont aménagé ton rôle de directeur des ventes. Donc, qu'est-ce que tu as fait de toi-même? Combien vous prenez des types? Ouais, moi, Blénara, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et un jour, leur... La secrétaire de direction, elle se barre, et l'autre, il dépose le bilan. C'est bizarre, non? C'est des assistés. Ils sont assistés. Ils ont fait accouchement avec péridurale toute leur vie. Oui ou non? C'est quand la taille du bébé n'est pas adaptée à la taille du col qu'il y a déchirure. Mais si quelqu'un il s'est bien préparé, il sait qu'il a besoin de cet accouchement, il est content que l'enfant vienne au monde, qui c'est l'enfant lui-même? Et lui-même, il va se mettre au monde. Donc lui, il a bien réfléchi, il s'est bien préparé. Il sait que la taille des choses, elle prend leur temps. Il ne faut pas se presser. C'est pas plus tôt, c'est pas plus tard. C'est le bon moment. Pourquoi on dit Besha Atova ou Mutzlachat? Pourquoi on dit pour une femme qui va accoucher, on dit Besha Atova? Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit la bonne heure. Ouais, et tout le monde dit Amen, Amen. Mais en vérité, les gens, ils ne disent jamais ça. Ils ne veulent pas que ça soit la bonne heure. Ils veulent vite, allez, vite. Et au contraire, il y en a qui ne veulent pas trop vite. Parce qu'ils savent qu'après, c'est pas évident avec le mari, tout ça. Alors ils sont pas pressés, il faut que ça dure. Ça dépend. Il y en a qui font durer. Il y en a qui... Oh, c'est embêtant, tu peux pas accoucher un enfant avec une bicyclette, ça fait mal. À 4 ans. Si on comprend ça,
Alors on comprend qu'en vérité, l'épreuve, mais c'est extraordinaire l'épreuve. L'épreuve, c'est extraordinaire. Moi, je vais dire mieux encore. De la même manière que tu sais que le sang d'une femme au moment de son accouchement, il est complètement renouvelé, eh bien, tu sais aussi qu'une femme, qu'un homme, au moment où il s'accouche de lui-même, il est renouvelé. T'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu réussis une épreuve, tu es un homme nouveau? Mais c'est normal, encore une fois. La maturité, c'est le résultat de la confrontation avec la réalité. Quelle réalité? C'est la différence entre ton potentiel et ta réalité. Donc quand toi, tu t'accouches de toi-même et que tu assumes l'épreuve, grâce à l'épreuve, tu es devenu une nouvelle personne. Donc tu es tout neuf, tu es tout frais, tu es propre, tu es bien, tu es fort, tu es grand. Qui c'est qui va te pousser à exister? Alors, c'est pas évident que c'est plus facile de garder la sécurité de l'acquis, de rester sur ses lauriers. Comment tu vas faire? Il faut une dynamique. Comment ça s'appelle? Le respect de soi. Tu dis, mais j'ai le droit d'être. Encore une fois, si un mec il me disait, mets-toi à quatre pattes, je lui casserai la figure. Alors, quand moi-même je me dis, mets-moi à quatre pattes, pourquoi je me casse pas la figure? Faut pas avoir peur. Ça s'appelle la projection. Il faut se projeter. Il faut dire, mais non, je veux pas. Comprenez ou non? Il faut se projeter. J'ai mon corps qui me dit, mais c'est pas mal déjà, t'es déjà bien, regarde les gens, ils te regardent dans la rue, regarde les gens, ils s'intéressent à toi, les gens, ils pensent que t'as un discours intéressant. Ça te suffit? Pourquoi tu vas encore étudier, encore te casser la tête, encore réfléchir, encore être plus fin, encore plus parfait? Pourquoi faire? T'es déjà bien! Tu peux frimer, non? Ça suffit. Un homme, il dit, mais moi, je le fais pas pour le regard des autres, moi. Moi, je suis pas la projection du regard des autres. La vie, c'est pas un miroir. La vie, c'est que c'est un diamant, et moi je taille un diamant, et le diamant, c'est moi. Donc plus je le taille, plus il est beau. Pourquoi je vais m'arrêter? Parce que j'ai 3 ou 4 mecs qui me disent, oh, t'es un mec bien. Et alors, un mec bien, on le marquera sur ma tombe, ça suffira. Je suis pas pressé. Pourquoi vous voulez m'enterrer? Au contraire, je vais évoluer, je veux grandir. Je veux exister encore plus. Cette dynamique-là, que de la même manière que les parents, ils sont jamais satisfaits de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire mieux. De la même manière, un homme, il ne doit jamais être satisfait de lui-même parce qu'il sait qu'il peut encore faire mieux. À ce moment-là, il ne faut jamais s'arrêter. Vous comprenez ça? Si c'est comme ça, on élague. Bon, si c'est comme ça, on peut comprendre ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Benzéoma Omer. Ezeu Mechabed, Mechubad, Amechabed et Tabériot. Qui c'est celui qui est respecté, celui qui respecte les autres? Alors les gens, ils croient que c'est Mida Keneged Mida. Ça veut dire que c'est une symétrie. Puisque toi, tu respectes les autres, alors que les autres te respectent. Non, la logique, elle est autre. C'est quoi? C'est que celui qui respecte les autres, c'est qu'il a compris que c'est pas facile d'exister. C'est difficile de se confronter. C'est difficile d'être mature. Et comme tu sais que c'est difficile, alors toi, tu as envie d'aider l'autre. Toi aussi, tu as envie de dire à l'autre, eh ben, je vais t'aider à exister. Alors, je vais te respecter. Parce que le respect, c'est une invitation à l'existence. Donc, quand moi, j'ai compris, je le prouve que le monde, il est fait pour exister. La preuve, c'est que j'aide les autres à exister. Alors, automatiquement, les autres, ils m'aident à exister. Si je vous dis une chose, c'est que, puisque le plus dur dans la vie, c'est d'exister, donc jamais quelqu'un pourra apprécier plus que le fait que tu donnes à l'autre le droit d'exister. Jamais. Tu peux faire les meilleurs cadeaux du monde. Tu peux donner toute la patience du monde. Tu peux donner ce que tu veux à quelqu'un. Quand tu lui donnes le droit d'exister, c'est la vie que tu lui as donnée. Vous savez, on peut être le père spirituel de quelqu'un. Simplement parce qu'on l'écoute. Parce qu'on l'encourage. Parce qu'on le relève quand il tombe. Parce qu'on l'empêche de tomber. Rien que le type qui voit que tu t'intéresses, regardez bien, à son existence. Il dit, mais je t'adore. Mais t'es extraordinaire. C'est quoi une histoire d'amour? C'est quoi une histoire d'amour? Une histoire d'amour, c'est qu'il y a simplement quelqu'un qui est plus prêt à exister pour moi que pour quelqu'un d'autre. C'est ça une histoire d'amour. Vous comprenez ou non? C'est pas que quelqu'un il s'aime tellement qu'il a besoin que tout le monde l'aide à exister. C'est que quelqu'un a besoin d'exister, c'est tout d'exister. Alors ses parents, ils vont l'aider à exister. Et la personne qu'il aime, elle va l'aider à exister. Or qu'est-ce que c'est une histoire d'amour? C'est une histoire de coexistence. C'est-à-dire que moi, je vais t'aider à exister, toi, tu m'as aidé à exister. C'est exactement l'inverse de moi, je vais te faire disparaître au profit de mon existence et toi, tu vas me faire disparaître au profit de la tienne. C'est que moi, tout mon but à moi, c'est ton existence. Moi, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de toi qui est tellement riche, tellement puissant, tellement fort que j'ai envie de le révéler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je te respecte, je t'admire, je t'adore.
comme ça, toi, regardez bien, tu vas révéler ton existence. C'est ce que j'ai envie. Si je détruis ton existence, c'est pas de l'amour, ça. C'est clair ou non? Alors, normalement, un homme, il doit tout faire pour révéler l'existence de sa femme. Une femme, elle doit tout faire pour révéler l'existence de son mari. Et l'amour s'appelle la coexistence. Mais les gens qui ont peur de l'existence de l'autre, c'est pas de l'amour. Les gens qui empêchent l'autre d'exister, c'est pas de l'amour. Les gens qui coexistent physiquement et pas mentalement, pas intellectuellement, c'est pas de l'amour. Tu dis, mais pourtant, ils s'adorent. Hein. Ils s'adorent! Il est même prêt à mourir pour elle. Non, 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 il n'est pas prêt à mourir pour elle. Au contraire. Vous voyez des cas, par exemple, où quand il y en a un qui s'épanouit, l'autre, il se détruit. Pourquoi? Parce que là, il y en a un, il avait fait toute une programmation que, comme les marches d'escalier, tu montes sur un escalier. Et bien l'autre, c'était une marche d'escalier. C'est-à-dire que bon, ma propre réalisation, j'ai besoin de marcher sur l'autre. Mais si l'autre, il se lève, imagine, il a une marche d'escalier, il dit, moi, j'ai envie de marcher. Là, tu dis, ah, t'es une marche, toi. T'es une étape. T'es pas un but. Il dit, mais non, je suis un but en moi. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'exister. Tu vois. Casse-toi. Ah, je te parle plus. Hein. Ah, je veux plus te voir. Oh là 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 là. C'est terminé. On n'existe plus ensemble. Pourquoi? Bah, attends, j'ai rien, je vais exister. Bah, au prochain. On peut créer un accident d'existence, une fuite existentielle dans le tuyau de l'autre qui fait que d'un seul coup, l'autre, il a envie d'exister. Et moi, je suis pas préparé, moi. Moi, j'ai tout fait pour qu'il n'existe pas. Maintenant, il veut exister. Je dis, ah, non, non, non. Je suis pas prêt à affronter les tentatives d'existence de l'autre. Donc, il n'y a pas d'amour. Donc, le respect de soi, c'est de se donner le droit d'existence. Le respect de l'autre, c'est donner à l'autre le droit d'existence. Tout le monde va exister, tout le monde va se respecter, tout le monde va exister. C'est le but de la création du monde. Comment il s'appelle Akadosh Baruch Hu? Melech HaKavod, le roi du respect. Pourquoi Dieu s'appelle le roi du respect? Alors nous, on va dire, mais je comprends pas, Hachem, il a de l'orgueil ou quoi? Il s'appelle le roi du respect. Genre, toi t'es grand, moi je suis le plus grand. Eh oh là, on n'est pas la goulette. Là. Enfin, oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est moi le plus grand. Moi, ton poids en or. Vous avez jamais entendu ça dans les synagogues? Moi, ton poids en or, moi je le donne à toi. Ton poids en or à toi. Vous avez jamais vu ça? Vous avez raté des westerns. Non. Elle dit, le Midrash Rabbah, il dit, la man y crache mon melech hakavod. Pourquoi son nom, il s'appelle le roi du respect? Chez où, regardez bien, Cholek Kavod le Ireav Mikvodo. Parce qu'Hachem, il distribue le respect à ceux qui le craignent. Mais regardez les mots, comment ils sont beaux. Lui, il distribue du respect à ceux qui le craignent. Mikvodo, de son respect à lui. Alors rappelez-vous de ça. Si le respect, c'est le droit d'existence, et que moi, j'ai envie que l'autre, il existe. Eh bien, il faut que je prenne un peu de mon respect pour que l'autre il ait la place d'exister. Par exemple, moi je suis le père, l'autre c'est le fils. Maintenant, je veux que mon fils existe. Eh bien, il faut que j'enlève un peu de mon respect à de moi. Il faut que je dise, bon, ben, faut que je discute avec lui. Je dis, bon, mon fils, qu'est-ce que t'en penses? Alors, mon fils, il va exister. Mais si moi je dis, j'existe! Alors, le fils, il n'a pas de place pour exister. Alors, il reste à l'intérieur. Donc, pour que lui existe, il faut que je lui donne un peu de mon kavod. Alors imaginez maintenant. Le kavod d'Hachem, c'est quoi le kavod maintenant? Le kavod, on a compris. Le kavod, c'est la distribution du droit d'existence et c'est le résultat de l'existence. Donc Hachem, il remplit le monde entier. D'accord? Le kavod, c'est l'existence. Donc le kavod d'Hachem, il remplit le monde entier. Mais Hachem, il veut que le monde existe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se contracte. Ça s'appelle le timtsum. Il se contracte à Kadosh Baruch Hu et il crée ce qu'on appelle le libre arbitre. Et dans ce libre-arbitre, il m'encourage à l'existence. Mais le maximum que je pourrais tirer comme tentative d'existence, ça sera toujours sur le compte de l'existence d'Hachem. Puisque c'est lui qui m'a donné le droit d'exister. Donc quand moi je vais exister, j'existe comment? Par le crédit que Dieu m'a donné. La preuve, c'est que si on a compris que mon âme, quand elle se réalise à l'extérieur, c'est ça l'existence. Or mon âme, c'est quoi? C'est un morceau d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem lui-même, il pouvait exister facilement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un morceau de lui-même à l'intérieur de l'homme. Et il a mis un libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est quoi? C'est la personnalité de l'homme. Est-ce que l'homme, il va dire, je vais exister ou non? Si l'homme, il décide d'exister pour lui, il va faire exister Hachem, puisqu'il contient une âme qui est un morceau d'Hachem. Et en se réalisant lui-même, en se respectant, il va faire exister Dieu. Mais si Chas v'Shalom, l'homme, il ne se respecte pas, il ne va pas exister. Et en n'existant pas, il ne va pas faire exister Hachem. Oui, non? Alors Hachem, il a créé un système qui s'appelle la Torah. La Torah, c'est les canalisations pour faire que ton existence elle, puisse se réaliser de la manière la plus optimisée. Si tous les bénis Israël se réalisent psychologiquement et spirituellement, donc leur âme, elle va prendre leur totale, regardez bien, leur totale ampleur à l'intérieur du monde physique. Mais si toutes les âmes de toutes les bénis Israël se réalisent, maintenant, quand on va les réunir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la partie d'Akadosh Baruch Hu qui a été distribuée au niveau potentiel à l'intérieur des âmes et qui maintenant se réunit devant Hachem. Ça, c'est quand ça? Mashiach. Parce que c'est marqué, regardez bien, ouvrez bien vos oreilles, c'est marqué « Ubayom ha'u yé Hachem echad ou shmo echad ». À ce moment-là, Hachem sera un et son nom sera un. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, mais pourquoi c'est marqué Dieu sera un et son nom sera un? Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Est-ce que Dieu et son nom, ça fait deux? Pourquoi tu mets une virgule? Dieu sera un et son nom sera un. Deuxièmement, Dieu lui-même, il n'a jamais été divisé, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui a été divisé? Son nom. Qu'est-ce que c'est son nom? C'est ça, la partie qui est perceptible d'Hachem. Vous savez que Shemo, le nom d'Hachem, son nom, oui, c'est la même valeur numérique que Retsono, sa volonté. L'expression de sa volonté dans le monde, comment ça s'appelle? Son Kavod. Quand tu respectes quelqu'un, c'est parce que tu fais sa volonté. La volonté de Dieu dans le monde, c'est son Kavod. Son Kavod, c'est sa volonté. Sa volonté, c'est son nom. Or, sa volonté, elle est redistribuée à l'intérieur de nous-mêmes, qui contenons des morceaux d'Hachem. Si nous existons selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et nous faisons un avec sa volonté, donc cette Neshama qui va s'exprimer, elle va s'exprimer selon un schéma qui s'appelle la volonté d'Hachem, c'est la Torah. Et la volonté d'Hachem exprimée, c'est le nom d'Hachem. Si toutes les âmes d'Israël, elles font la volonté d'Hachem, donc le nom d'Hachem, il est révélé entièrement. Et ce morceau-là, qui va se coller avec Hachem, ça va faire Hachem Echad. Donc son nom, sa volonté et son kavod, c'est la même chose. Et c'est nous qui sommes les déterminants du kavod d'Hachem. C'est pour ça que si Chas v'Shalom, on se conduit mal, s'appelle un chilou l'Hachem. Et si on se conduit bien, s'appelle un kidouche Hachem. Donc si nous, on révèle de l'intérieur de nous-mêmes, la partie d'Hachem que nous contenons, mais sur le mode existentiel que la Torah a demandé, qui est le plus optimisant, vous comprenez ou non? Tu peux être un acteur super, tu peux être un héros super, tu peux être un père super, mais tu ne seras jamais plus grand qu'un juif super, jamais. C'est pourquoi? Parce qu'un juif super, c'est quelqu'un qui a complètement optimisé, tu vois, un rosier, tu as ce rosier, il contient 84 roses, tu dis, mais il en a fait 4. C'est bien, mais il en contient 84. La Torah, c'est quoi? C'est la capacité d'optimiser les 84 boutons de rose. On contient des boutons. On peut les ouvrir. Quand chaque juif, il aura ouvert tous les boutons de ses roses, ce grand bouquet extraordinaire s'appelle Kavod Hachem. Ça s'appelle Hachem Echad ou Shmo Echad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le respect de soi, c'est pas seulement un défi personnel, c'est un défi universel. C'est pas que moi je suis concerné par ma petite existence égoïste et de dire eh ben moi aussi je vais me réaliser, moi aussi je vais être mec bien. C'est parce que si moi je suis bien et toi t'es bien et toi t'es bien et moi je m'arrange pour que tu sois bien et moi je m'arrange pour que tu sois bien et toi tu t'arranges pour que je sois bien, Hachem il va se révéler dans le monde. Ça va? Voilà.